lights out. And away we go for one more time in 2012. Great start from Hamilton. What a start from Vettel. Then we're heading into Red Bull. Fernando Alonso goes around the outside of Sebastian Vettel. Has already lost places, getting caught in no man's land on the inside. Hamilton squirms away. Compassion and Jensen by Paul Resta. Challenging Sebastian Vettel now as we ride off more down the rest of the puffer towards the speed of the line. It was a cautious start for the championship unit.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix de Bahreïn sur le circuit de Sakhir. Pour m'accompagner, comme toutes les semaines, bonsoir Dino.
Bonsoir Shinji.
Et cette semaine, quelqu'un qui est déjà venu nous voir, c'est Alex. Bonsoir Alex.
Bonsoir, bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Alors messieurs, premières impressions sur ce Grand Prix de Bahreïn?
Explosif, pour les bonnes raisons, vu qu'on était à Bahreïn. C'était pas du terrorisme, mais bon. Non, moi j'ai trouvé que c'était un très beau Grand Prix, parfois trop musclé, mais surtout avec Weber, à un moment donné, avec Rosberg, il a donné un sale coup de volant. J'ai pas pu revoir de replay, enfin bref, moi j'ai vraiment apprécié, en plus Vettel a gagné, j'adore Vettel, donc à tous les niveaux j'étais comblé.
Ah, voilà, un invité, voilà, enfin. Il aura fallu 4 Grands Prix, on a enfin un bon invité.
Dino, tu nous as déjà dit par le passé que t'aimais pas trop quand c'était brouillon, t'as trouvé ça comment?
Bah là c'était un peu brouillon, ouais. Je trouve que pour le coup, alors c'est ce que je disais dans la dernière émission, j'avais fait le résumé du Grand Prix de Chine, ce qui a tendance un peu à ressortir du Grand Prix, mais j'avais quand même compris le Grand Prix. Là j'avoue que j'ai rien foutu pendant le Grand Prix, j'ai regardé le Grand Prix et j'étais quand même un peu paumé.
Pareil pour moi, j'étais aussi perdu que toi à mon avis, parce que j'étais perdu en fait avec Raikkonen, je me demandais ce qu'il allait foutre et je le revoyais sortir 10e, enfin je savais plus, bref c'était vraiment le bordel.
Et là, c'est vrai que bon, après il y a eu des magnifiques moments et compagnie. Il y a eu des belles bagarres. C'était un Grand Prix très plaisant à regarder, très divertissant. C'est spectaculaire, mais ça reste quand même très brouillon. Et toi, Shinji, qu'en as-tu pensé?
Bah pareil. L'action, bon, c'était fun, c'était classe, faut le dire. Un peu brouillon. Encore une fois, comme en Chine, un circuit qui est pas spécialement super réputé, mais qui au final nous offre, je pense, ça restera comme une belle course.
Ouais. Mais c'est rigolo parce que c'est pas le meilleur circuit, pourtant c'est un circuit qui est assez sympa, qui est assez homogène, il y a des beaux virages,
oui.
En pilotage, il est assez sympa.
Il est large, donc pour les dépassements aussi, ça ouais. Aide. Messieurs, ce dimanche, nous étions le 21 avril.
Oui. Tu vois, ce qui me fait peur, Alex, c'est que toi, t'as connu ça, quoi. La dernière fois que t'es venu, c'est au Japon en 2011, c'était déjà là, et là, c'est encore là. C'est tout le temps là, ce truc-là.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite.
Messieurs, le chiffre de la semaine, c'est un gros chiffre.
Oui, 48 millions.
C'est plus grand encore que ça.
Mon Dieu.
Le chiffre de la semaine, c'est 200,2 millions. Ou, on peut aussi le lire, 200 millions 200 000.
Le nombre de grains de sable sur le circuit.
Il y en a peut-être même encore plus, mais ce n'est pas ça.
202 millions, c'est un nombre, c'est une somme de choses, ou de personnes.
Oui,
ou
c'est une somme de choses.
De choses,
oui.
Donc. De l'argent?
Non.
Des objets manufacturés?
Oui.
C'est-à-dire fait par l'homme?
Oui, fait par l'homme.
Des petits objets, je suppose, avec ce chiffre-là.
C'est relativement petit.
C'est des objets qui sont composants d'un ensemble plus grand?
Non.
Non, c'est des objets indépendants les uns des autres.
Oui.
Sur des objets identiques?
Pas tous.
C'est-à-dire qu'ils ont, une fonction différente ou
alors,
c'est juste
ils ont globalement la même fonction, mais certains, on va dire, ne sont pas du même modèle.
Oh, j'espère que t'es inspiré, Dino, parce que moi.
Est-ce que c'est mu par une source d'énergie?
Oui.
Est-ce que c'est un homme peut rentrer dedans?
Non.
Un enfant?
Non plus. C'est petit, hein. Je l'ai dit. Hein, c'est quand même assez. Enfin, c'est,
d'accord.
C'est pas minuscule, c'est petit, quoi.
Est-ce que c'est un objet du quotidien? Est-ce que ce sont des objets du quotidien?
Oh, oui, quand même, oui.
Ce sont des objets d'une même marque?
Oui.
Des objets qu'on a chez nous?
Chez vous, vous deux?
Ou... Non, mais qu'on peut avoir chez nous dans notre maison.
Oui, oui. Oui, c'est commun. Je dirais que c'est pas dans toutes les maisons, mais on peut en trouver dans beaucoup de maisons. Et même en plusieurs exemplaires dans une même maison.
Ah, ça m'intrigue. Est-ce que ce sont des objets qu'on laisse à la maison quand on sort?
Ça serait dommage.
Donc c'est des objets que quand on sort, on le prend avec nous.
On n'est pas obligé, mais on peut.
Donc ça écarte ma première piste, qui était les interrupteurs. Le mec, il se barre chez lui, il prend tous les interrupteurs. Comme ça, s'il y a un voleur, il peut pas allumer la lumière.
C'est plus grand qu'un interrupteur, ça je peux te le dire.
Donc ce sont des objets qu'on trouve à la maison. Il est préférable de sortir avec.
On peut.
Ce sont des objets. On peut. Mm. Ce sont des objets que l'on porte.
Oui.
D'ordre vestimentaire.
Non.
De l'accessoire.
Oui. C'est une très bonne piste, le fait que ce soit des objets que l'on porte.
Ça va avec des vêtements.
Non.
Donc c'est quelque chose qu'on met dans sa poche.
Oui.
Est-ce que ça sert à communiquer avec des gens?
Non.
Non. Donc ce n'est pas un téléphone portable.
Non.
Des clés?
Non.
Des porte-clés?
Non. Enfin, ça peut rentrer dans une poche. Pour certains d'entre elles, c'est compliqué quand même. Mais pour d'autres...
Ce sont donc des femelles.
Oui, habituellement.
C'est des objets femelles.
Alors, ça dépend si on suit le constructeur, le Larousse, ou l'usage courant. Dans l'usage courant, dans l'usage courant français, c'est féminin. Et là, je lis une petite note. Les Québécois et les Belges disent le.
Ah, ça va nous aider, ça.
Ah la vache, attends. Un porte-monnaie?
Non. Je peux vous dire que la date concernée est assez récente, puisque c'était le 21 avril 1989.
Je sais pas, mais là.
C'est 200 000 objets de la même classe, mais qui sont différents les uns des autres.
Alors, certains se ressemblent, mais ils ne sont pas tous identiques.
Ça s'achète?
Oui, ça s'achète.
Dans un supermarché?
Oui, ça peut se trouver dans un supermarché.
Mais ça s'achète plus couramment dans un magasin spécialisé.
Ça peut aussi se trouver dans un magasin spécialisé.
T'es un peu casse-couille. Le casse-couille électrique, voilà, c'est ça. Moi, quand je sors de chez moi, je prends toujours un casse-couille électrique. Voilà, je trouve ça tellement chic de se balader dans la rue avec un casse-couille électrique. Non, c'est quand même dingue. Il y a quand même pas 3 milliards de choses qu'on peut mettre dans sa poche et qu'on a en plusieurs exemplaires chez soi.
Ah, on peut.
C'est quelque chose que tu mets dans ton portefeuille.
Ah non.
C'est pas farfelu qu'on le met dans la poche.
Non.
C'est pas genre un batteur électrique, tu vois.
Non.
Je me sors avec mon batteur électrique et compagnie, non.
Non.
C'est même plutôt généralement dans la poche. Quoi, ça.
C'est un lecteur MP3 ou quelque chose comme ça?
C'est, oui, vous voyez, smartphone, lecteur MP3, c'est ce genre de...
C'est un jeu?
Oui, mais lequel?
Un Game Boy.
La Nintendo?
Oui! Donc, c'est ça, la Game Boy, aussi appelée le casse-couille électrique. Donc le casse-couille électrique est sorti pour la première fois au Japon le 21 avril 1989 et s'est vendu depuis cette date à 200 millions d'exemplaires.
Bah, 200 000, je vais pas mettre de te corriger celui-là parce que c'est pas important.
Ah non, 200 millions.
Bah attends, c'était 200 000.
Ah oui, 200 millions, oui d'accord, non, je pensais que tu me reprenais sur 200 millions. Donc oui, 200 millions, non, ouais. 200 000 exemplaires, et quelques, hein, j'ai pas les chiffres après.
Ah bah oui, tu les as, Chidil, attends, t'es en train de nous dire que ton chiffre il est foireux, attention, méfie-toi, Chidil.
On n'est pas à 10, on n'est pas à 10 casse-couilles électriques près, hein. Donc elle est sortie le 21 avril 1989, hein. Et c'est pour ça que je disais quand qu'on dit qu'elle est dans une poche, souvenez-vous de la première Game Boy.
Ah punaise.
Voilà, ceux qui ont eu une première Game Boy savent ce dont je veux parler.
Il fallait avoir des pantalons.
Voilà. Alors elle est arrivée en Europe et en France un an plus tard, hein, en septembre 1990. Elle était vendue 590 francs. Ce qui, avec l'inflation, représentait 130 euros. Donc, elle était quand même moins chère que les consoles d'aujourd'hui.
Oui.
Alors, 200 millions, c'est vraiment le chiffre global en comptant toutes les générations de Game Boy. Puisqu'il y a eu deux... En fait, en gros, on peut les diviser en deux générations. Il y a la première génération donc de la Game Boy qui est sortie en 89, qui a évolué ensuite en 95 en Game Boy Pocket, où là, déjà, tu pouvais déjà la mettre un peu plus dans une poche.
D'où son nom de Pocket.
De Pocket, oui. La Game Boy Pocket qui amenait notamment un écran rétro-éclairé et qui était vraiment gris. Parce que le premier écran de la Game Boy, pour les plus jeunes, hein, qui peut-être... il était plus vert que gris, hein, faut bien le dire. Alors j'ai les statistiques, j'ai les caractéristiques. La première Game Boy, elle avait un processeur cadencé à 4 MHz.
Où ça?
Avec une mémoire principale de 8 kilo-octets. Et elle avait donc un écran...
Attends, 8 kilo-octets?
Oui. Et une mémoire vidéo de...
Alors MHz et tout, je comprends pas, mais 8 kilo-octets, c'est rien.
Donc ça, c'est la RAM, hein. Il y a une mémoire vidéo de 8 kilo-octets. Donc en fait, il y a 16. Il y a 8 pour la vidéo et 8 en RAM, quoi. Et l'écran avait une résolution de 160 par 144. Et les cartouches de jeu peuvent elles aller, les cartouches, de 32 kilo-octets à 8 mégaoctets.
C'est 8 kilos. T'es sûr, c'est 8 kilos?
Mais oui. Eh, c'est l'informatique en 1989. Et encore. Et encore. 89.
Mais c'est un fichier au format TXT.
Bah oui, mais c'est des nuances de gris.
Ouais, c'est vrai.
Hein, en plus, au niveau de l'architecture, c'est plus ou moins une NES, hein. Et je te rappelle que sur NES, Legend of Zelda, tu peux avoir que 255 rubis, parce que le problème, c'est qu'avec le 0, ça fait 256, donc ça fait qu'un octet.
Ah donc, oui.
Bah oui. D'ailleurs, j'ai les statistiques. Vous voulez les statistiques de la 3DS en comparaison?
Oui, hein, vas-y.
Alors, les caractéristiques de la 3DS. Elle a un processeur ARM 11 double cœur cadencé à 268 MHz.
Donc,
avec
d'accord.
Un GPU pour les graphiques qui est cadencé lui aussi à 268 MHz, 128 mégaoctets de mémoire vive, 1 giga de mémoire flash interne.
Ah ouais, putain, ouais.
Au niveau de l'écran, alors pour la 3DS normale, il fait 9 cm avec une définition de 800 par 240 que tu divises par 2 millions quand tu fais en 3D. Voilà, c'est pas la même époque, hein, on va dire.
Oui.
Donc après, il y a eu la Game Boy Color, hein, qui est aussi considérée par Nintendo dans la première génération, même si là, attention, ils ont doublé le microprocesseur et la mémoire.
Oh là là, dis donc.
Pour passer à 8 MHz et forcément 32 kilo-octets de mémoire.
Ouh là là.
La folie.
Mais le pire, c'est qu'on se marrait bien.
Mais oui,
enfin, c'est dingue.
Oui,
il fallait pas grand-chose pour vous amuser.
Donc après, en 2001, est arrivée vraiment la génération suivante, la Game Boy Advance.
Qu'on pouvait brancher sur la GameCube.
Oui. Vous vous souvenez, en plus, elle était en format... Alors, il y a eu trois modèles hein, de Game Boy Advance. La Game Boy Advance première du nom, réputée pour bousiller les yeux des gens qui jouaient avec son super écran non rétro-éclairé, super sombre. Donc elle, la Game Boy Advance, elle avait plutôt une architecture de Super NES. Hein. Donc là, on tapait dans le 16 MHz et tout ça. Ensuite, il y a eu la Game Boy Advance SP, qui s'est vendue à elle toute seule à 44 millions d'exemplaires. Donc c'est celle qui oui. qui est à la fois inspirée des vieux Game & Watch et qui préfigure la Nintendo 3DS, hein, qui elle justement apporte aussi l'écran rétro-éclairé et qui d'ailleurs si on s'intéresse au rétro gaming et qu'on veut avoir une vraie console avec des vrais jeux sur cartouche, c'est sans doute le meilleur modèle à obtenir, hein, puisqu'elle est rétro-compatible avec tous les jeux Game Boy première génération et elle ne vous tue pas les yeux. C'est un grand avantage quand même.
Et quand on aime les jeux vidéo.
Et il y a eu un troisième mode, le Game Boy Advance, alors qui est beaucoup moins connu, elle s'est vendue qu'à 2 millions d'exemplaires à peu près, c'est la Game Boy Micro, qui est une Game Boy Advance, mais alors qui par contre n'est plus rétro-compatible, qui était de forme horizontale, qui avait la particularité d'avoir des façades personnalisables. Mais en fait, pourquoi elle s'est très peu vendue, c'est parce qu'elle est sortie en fait aux environs de 2005, au moment en fait où la DS était déjà sortie.
Non mais ils sont cons, quoi. Enfin...
DS qui était en plus rétrocompatible avec les jeux Game Boy Advance. Donc oui. Il y avait, voilà. Par contre, il paraît que c'est le plus bel écran qu'il y ait jamais eu pour une Game Boy. Alors si on les prend ensemble, hein, vraiment toutes, mais alors ça fait sur près de 16 ans d'âge, ça fait de la Game Boy la console la plus vendue au monde. Hein. Après, si on oui. sépare hein, Game Boy et Game Boy Advance, ça reste quand même parmi des consoles extrêmement bien vendues. Est-ce que vous savez d'ailleurs quelle est la console la plus vendue de l'histoire ?
La PS2,
exactement. Ils en ont vendu 155 millions. Pour vous donner un peu un top 10 avec les chiffres en millions, donc il y a la PS2 qui est à 155 millions, la Nintendo DS qui est à 153, et il s'en vend encore quelques-unes, donc peut-être qu'elle va pouvoir crater. La Game Boy première génération, 118 millions. La PlayStation 1, 102 millions. La Wii, qui est juste en dessous des 100 millions, à 99 millions. La Game Boy Advance, 81. La PSP, 77. La Xbox 360, 75 millions. La PlayStation 3, 70 millions. Et la dernière du top 10, c'est la NES, avec 61 millions d'exemplaires.
Il n'y a pas une Xbox, rien
bah
que
si, y a la Xbox 360.
Ah oui, oui.
La Xbox et la PS3 sont 8 et 9, en fait, du classement. Et alors, pour les consoles qui sont en vente actuellement, la 3DS, actuellement, elle atteindrait 29,84 millions. Elle est 15e du classement, hein, pour info. Entre l'Atari 2600 et la Xbox. Et puis alors les deux dernières, bon, la Wii U, elle est très récente, elle est, alors on estime entre 3 millions et demi et 4 millions et demi, sachant qu'ils voulaient en vendre 5 millions et demi. Voilà,
oui. Hein,
c'est assez mitigé quand même pour l'instant, même si c'est très récent. D'ailleurs, apparemment, il y a les chiffres qui vont tomber pour Nintendo, et peut-être que le PDG de Nintendo va sauter. C'est peut-être même déjà le cas au moment où vous nous écoutez, hein, puisque apparemment, ils vont annoncer pour la deuxième fois des pertes chez Nintendo. Et il y a la PS Vita, Et là, c'est encore plus flippant parce que la PS Vita, elle est à 4 millions. Mais elle, elle est sortie il y a un an.
Ouais.
C'est très flippant parce que quand tu vois ta console et que tu vois que ta vieille console se vend mieux que ta dernière console, ça fait peur. Et alors, en F1, qu'est-ce qui s'est passé un 21 avril? Alors, j'aurais pu vous parler de Max Chilton.
C'était l'anniversaire.
Mais bon, on s'en fout.
T'aurais pu nous parler du 200e anniversaire de Mark Weber avec son gâteau, avec sa caricature, qui pas très sympa d'offrir un gâteau avec une caricature, je trouve.
C'était dégueu, en plus, sa caricature, c'était vraiment...
Oui.
Non, mais surtout, ce qu'on peut retenir du 21 avril, c'est le 21 avril 1985. C'était le Grand Prix du Portugal, deuxième Grand Prix de la saison à Estoril.
Ah bah, oui, attends. Oui, 86... Bah, c'est la première victoire de Senna.
À la fois première pole et première victoire.
Ouais, première pole, première victoire.
Sous la pluie, un déluge. Un truc de fou, déjà, dès sa première victoire. Alors, pour vous dire, il y a eu 16 abandons. Senna a fini une...
Oh, bah, c'est pour ça!
Non, mais attends, il a fini une minute devant Alboreto qui était deuxième. Mais, et Alboreto était le seul dans le tour.
Ouais, ça veut tout dire, quoi.
Le dernier à ne pas avoir abandonné, c'était ce regretté Manfred Winkelhock. Qui s'est fait pour... alors qui a fini non classé, il a fini la course mais non classé puisque il s'est pris quand même 17 tours d'avance.
C'est pas un record ça,
17 tours.
Ça m'a l'air énorme.
Ça, oui, voilà, quand j'ai lu ça, j'ai pas cherché. Mais
ben alors, il y a quelques années, faut se rappeler, il y a quelques années, je sais plus, les pilotes devaient reprendre, c'était à l'époque où il y avait les qualifications en fonction du Grand Prix précédent et compagnie. Et je me rappelle notamment de Schumacher qui avait eu un accident ou je sais plus quoi et qui avait repris la piste. Donc c'est pas impossible qu'il y a quelques années, on était aussi dans des retards comme ça de 8, 9, 10, 15 tours. Un peu à ce qu'on voit en NASCAR parce que la position en arrivée était importante pour définir la position de départ lors des prochains Grands Prix dans les qualifs.
Mais là quand même 17 tours, et ce qui fait il est même pas classé en fait. Oh non, il est quand même devant ceux qui a abandonné. Il a fait plus... le dernier à avoir abandonné, c'est Lee Kiloda qui avait fait 49 tours. Donc il a quand même fait plus de tours que le dernier à avoir abandonné. Donc voilà, c'était la première de ses... Combien de victoires?
41.
Alors on a beaucoup parlé en plus ces dernières semaines entre Alonso et Vettel. Alors Alonso il est à 31, Vettel il est à 28, sachant que donc Mansell est à 31, Senna 41, Prost 51, Schumacher 91. Vous pensez que ces deux-là peuvent aller chercher déjà Ayrton Senna, voire plus?
Oh oui, aller chercher, je pense, les deux.
Senna et Prost?
Les deux, ouais.
Senna,
Prost pour Alonso, ça me semble, ça fait quand même 20 Grands Prix. Disons qu'il faudrait qu'il ait une saison de domination.
Oui, pourquoi pas. Hein. Puis
s'il a une saison de domination à Sébastien Vettel, les 20 Grands Prix, je pense qu'il les aura. Mais là, 20 Grands Prix, vu comme ça se tourne par exemple cette année, déjà s'il en prend 4 ou 5 cette année, ça sera bien. Donc au rythme de 4 ou 5 par saison, il faudra quand même...
Ouais, mais Alonso, il peut encore rester longtemps. Tu dis 4 ou 5 par saison, ça fait 20. Alonso est quand même loin... il est loin de la retraite, je veux dire. C'est pas le plus jeune, mais parce qu'il fait partie des plus âgés maintenant. Mais on peut l'imaginer facilement être encore 4, 5, 6 ans en F1, hein, facile. Hein.
Son contrat se termine en 2016, donc il y a minimum jusque là. Puis après, si par malheur pour Ferrari il est pas champion, bon, ce que je ne lui souhaite pas quand même, mais bon.
Oui, je pense que là Fernando il va pas trop longtemps s'engager. Il va dire les gars, on est en 2013, on verra la reconduction de contrat en 2016. On comptera le nombre de titres qu'il y a et s'il y en a autant que sur Renault, je reste.
Puis de toute façon il y a un jeune Allemand qui pousse la porte de Ferrari, donc il dégage. Hein.
Mais par contre Vettel c'est sûr que
il est déjà 28,
que Prost il le battra. Il est à 28, Prost est 51, peut-être 61, 61, 71, 81, ça peut être des chiffres bien pour Vettel.
Il y a des creux à occuper donc.
Bah vous pouvez pas aller chercher Schumacher ou?
Ah pourquoi pas Vettel hein. Il est très jeune hein, donc faut pas l'oublier. Lui, il a vraiment le temps avec lui. Donc voilà, et c'est aussi pour ça que cette semaine, on a fait un cadeau avec des trucs de Senna, parce que voilà, c'était aussi fêter un peu cet anniversaire. Donc voilà, c'est tout pour l'éphéméride cette semaine, Dino.
C'était un beau chiffre, j'ai dit.
Un gros chiffre.
Bravo.
Dino, on passe au quart d'heure de l'invité.
Oui, à l'heure de gloire de l'invité, j'ai dit. Qu'est-ce que tu veux avoir, c'est incroyable.
Oui, mais tout le temps je la fais, tout le temps tu me reprends.
Nous, on sait que ça, en réalité, ça fait qu'un quart d'heure, mais il faut flatter un peu les invités.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'heure de gloire de l'invité.
Donc Alex, tu ne le sais pas parce que c'est vrai que comme t'es pas venu l'an dernier, tu n'as encore jamais passé une heure, un peu moins, à nous parler de toi.
Ouais, je suis vierge du quart d'heure de la vie.
Voilà. Donc ça commence par le
pour pas pour.
Le pour pas pour. Alors, je rappelle, parce qu'il faut toujours rappeler, parce que c'est comme ça que les concepts sont bien établis, je rappelle le principe du pour, pas pour. Je vais te faire 10 propositions, tu me diras à chaque fois si tu es pour ou pas pour. Il y a une proposition, tu vas être obligé d'y passer, même si tu es belge. Et puis après, tu pourras revenir sur 3 propositions de ton choix. Je sens que cette proposition-là, quand tu auras des belges, elle va vite
jeter.
Alors, attention, quand tu es prêt, tu me le dis, et je me lance.
Oui, mais je suis prêt, tu peux y aller.
Pour ou pas pour le retour de Toyota en Formule 1?
Pour.
Pour ou pas pour aller dîner avec Marc Weber et Fernando Alonso?
Pour.
Pour ou pas pour délocaliser le Grand Prix du Brésil ailleurs qu'à Interlagos?
Pas pour.
Pour ou pas pour un Grand Prix du Bahreïn de nuit?
Pas pour.
Pour ou pas pour Kimi Räikkönen chez Red Bull en 2014?
Pour.
Pour ou pas pour aller en avion de Manama à Barcelone en écoutant en boucle du flamenco? À noter que le trajet dure près de 24 heures, dont 13 heures d'escale aux Pays-Bas.
Ah, aux Pays-Bas.
C'est ça qui l'emmerde.
Non, pas pour quand même.
Pour ou pas pour le circuit de Sochi?
Pas pour.
Pour ou pas pour Heikki Kovalainen? T'as sur ta gueule.
Pas pour.
Oh là là, oh le dingue, oh le dingue.
Retiens-moi, Julien. Pour ou pas pour l'attribution des hospitalités par tirage au sort?
Franchement, je m'en fous. Je vais dire pour.
Voilà. je te rassure, c'est parce qu'il m'en manquait. Hein. Et enfin, pour ou pas pour, la F1 sur Canal+.
Pour.
Pour. Et donc, t'es obligé, excuse-nous, de nous dire comment tu as regardé la F1 ce week-end et ce que tu penses de la F1 sur Canal+.
Ben, je n'ai pas regardé la F1 sur Canal+, puisque avec ma télédistribution, j'ai pas accès à la chaîne cryptée, donc j'ai regardé sur la chaîne belge RTBF. Même si les commentaires sont pas toujours extraordinaires, ça remplit son rôle, quoi.
T'inquiète, donc, sur Canal+ non plus.
Ben ça, je me doute qu'avec Jacques Villeneuve, je sais pas s'il y a des Québécois qui nous écoutent.
C'est ce très effrayant. On s'était habitué qu'il ait plus de cheveux. Enfin, je veux dire, c'était, tu vois, c'est comme les ailerons avant large, tu vois. Au début, ça surprend, ouais. Puis on s'habitue. Et là, qu'est-ce qu'on a découvert cette semaine? Il recommence à se pousser les cheveux.
Oui, puis il a des lunettes bizarres.
Oui, il a les lunettes d'Eva Jolie, c'est pas pareil.
sinon, la F1 sur Canal+, de manière générale, la F1 sur des chaînes payantes, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, ça me pose pas de problème, vu que j'ai pas besoin de payer pour regarder la F1, donc, ce qui est cool, c'est que, comme il faut payer pour que les gens regardent la F1, il faut proposer un bon service. Donc, c'est d'office meilleur que ce que TF1 proposait. Là, je voyais ce que TF1 faisait, c'était désastreux. Enfin, à mon humble avis. Je sais pas ce que ça donne sur Canal+, mais ça, en tout cas, ça a l'air d'être assez précis, enfin, assez bon, quoi. Ce qui est dommage, c'est qu'en Angleterre, là, je regardais les Grands Prix sur la BBC, et c'est passé sur la chaîne payante Sky Sport, et ça, je suis pas pour.
Alors, faut savoir que Bernie Ecclestone a demandé visiblement à ce que, il veut que ça reste sur Sky Sport, mais il veut que les gens puissent avoir gratuitement un décodeur. Ouais. Voilà, donc j'ai vu ça vite fait entre deux portes, mais je sais pas trop comment ça va fonctionner de demander gratuitement un décodeur, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, derrière, faut que tu t'abonnes. Donc,
bah oui, c'est... Oh, Bernie, il nous fait un cadeau de 5 livres pour la location du décodeur, c'est trop gentil.
Et donc, à partir de là, tu as le choix, tu peux nous traiter 3 des 9 sujets restants.
Ouais, tu peux me les rappeler? Enfin, tu sais quoi, je vais d'abord revenir sur Kovalainen, parce que ça a l'air de faire mal. je vais quand même m'expliquer sur Kovalainen. J'ai rien contre lui.
Ah bah voilà, pas mal. Enfin,
ouais, non, je veux juste qu'il revienne pas. Enfin, à la limite, il pourrait revenir à la place de Van der Gaart, ce serait peu me chaud, à la limite. Mais, ce qu'il y a, c'est que j'aime bien quand il y a du changement chez les pilotes, quoi, et que voir un mec qui a eu sa chance pendant pendant 5 saisons en Formule 1 et qu'il l'a pas vraiment saisi, vu qu'il est passé chez McLaren avec un succès assez relatif, bah voilà, à partir du moment où il la prend pas, c'est normal qu'il soit poussé vers la porte de sortie, quoi. Donc, qu'il revienne, tant mieux pour lui, mais pour faire quoi, c'est la question que je me pose.
Alors, à noter qu'il a indiqué que, donc, il faisait des essais et qu'il avait aucunement l'intention de prendre la place des titulaires. D'ailleurs, Van der Gaart, le premier truc qu'il a fait, c'est quand Kovalainen a été annoncé, il a dit non, mais moi, je serai là jusqu'à la fin de la saison. Je me suis arrangé avec mes financiers, vous inquiétez pas. Mais sinon, il roulera à Barcelone, il reroulera un peu dans l'année, il espère faire d'autres essais aussi avec l'équipe, pour justement les aider à développer un peu la voiture et aller de l'avant, et notamment accompagner les jeunes pilotes.
Ça par contre, c'est une bonne chose, parce que apparemment ça a l'air de mieux fonctionner, une fois qu'il y a un pilote expérimenté qui se met dans la monoplace et qui donne un peu la direction à suivre.
Mais même pour nous, ce qui est intéressant, c'est qu'il a déclaré à propos de la Caterham qu'elle était très très complexe, qu'elle avait pas un aussi bon équilibre que la voiture de l'an dernier. Donc même pour nous, c'est intéressant d'avoir son point de vue à lui sur la voiture. On peut estimer en plus d'un point de vue vraiment neutre, parce que même s'il est employé par Caterham, il aurait aucun intérêt à dire que la voiture est bonne ou mauvaise, parce que il est pas vraiment dans la communication de l'équipe. Et donc ça nous permet vraiment de juger le niveau de la Caterham par rapport à l'an dernier, et de bien voir que c'est eux qui ont fait un pas en arrière cette année.
Ouais.
Alors, dans les autres sujets, je te les rappelle, Toyota de retour en Formule 1, le dîner Marc Weber, Fernando Alonso, le Grand Prix du Brésil à York à Interlagos, le Grand Prix du Bahreïn en nocturne, Kimi Raikkonen chez Red Bull en 2014, le circuit de Sochi où l'attribution des hospitalités par tirage au sort.
C'était beau quand même, je vais revenir sur le dîner, le fameux dîner entre Weber et Alonso. Franchement, je trouve qu'on en a fait un grand foin de ce truc, alors que ouais, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu de com de dire juste après la Malaisie, dire regardez, on est potes, les deux rivaux de Vettel, on va dîner. Enfin bref, mais c'est surtout parce qu'ils sont tous les deux les clients de Flavio.
Oui. Mais oui, c'est ça. Surtout, ils sont pas devenus amis après la Malaisie, quoi.
Bah oui, on fait grand cas de ce truc-là, alors que finalement c'est normal. Maintenant, ça serait pas peut-être certainement pas ça serait pas passé avant, vu que Alonso est sur Twitter, il en a profité pour utiliser Twitter. Les gens s'emballent avec ce truc-là, genre Weber va les critiquer, Vettel donne des trucs ou des trucs ainsi.
Oui.
C'est ridicule, quoi. C'est un dîner, les gars, calmez-vous.
Mais c'est ça, c'est purement politique, parce que c'est vrai que ils sont très copains, ça, on le sait. On peut très bien imaginer que c'est pas quand même le premier repas qu'ils font ensemble.
Mais le pire, là, c'est que si ça se trouve, ils font voilà, serpa.
De le mettre sur Twitter à ce moment-là, c'est naturellement de la part Fernando Alonso quelque chose de politique en disant, moi, je suis pote avec Weber. Mais après,
Le pire, c'est que si ça se trouve, quand il y a ce genre de dîner, comme on dit, ils ne parlent pas boulot.
Oui.
Ouais, c'est ce qu'ils ont dit, en plus, on n'a pas parlé. Enfin, ça, c'est ce qu'ils ont dit.
Quand ils font leur repas, là, du GPDA, où ils sont 18. Oh mon dieu, vous imaginez tous les secrets qui se mélangent et tout, entre toutes les écuries.
Mais après, ça se trouve, Marc Weber a vraiment balancé des trucs. Hein.
certainement, mais bon. En même temps, Vettel conduit ainsi, qu'est-ce que tu veux que Alonso en fasse? Au troisième virage en Malaisie, il faut freiner. sinon, il y avait aussi... il y avait Interlagos, les Hospitalities, et il y en avait tellement sur laquelle je voudrais revenir. Franchement, je sais pas, je vais dire Toyota quand même, simplement pour le fait d'avoir plus que deux constructeurs en F1, parce que bon, maintenant c'est vraiment devenu une affaire, je regrette un peu l'époque, surtout que je l'ai pas connue, j'aimerais bien la connaître, des équipes qui avaient vraiment le nom d'un constructeur, qui avait Ferrari, il y avait Toyota, il y avait Honda aussi, ça serait bien d'avoir des écuries qui ont une identité nationale un peu plus forte, quoi. On a Toyota, c'est vraiment une équipe japonaise, Ferrari c'est une équipe italienne, Mercedes c'est allemand, il n'y a pas vraiment d'équipe, il y avait Renault qui était français, mais maintenant on ressent beaucoup moins ça. Donc ça, il y aura pas, malheureusement pour nous, il y aura pas d'équipe belge, même s'il y a pas de constructeur belge, mais
Il y a comment ça s'appelle, merde.
Ah oui, non, il y a moyen de se mettre en avant avec des pilotes qui sont, je sais pas moi, repris par McLaren.
Mal placé. Hein.
Le défi, c'est de prononcer un nom de pilote qui est imprononçable pour la moitié des gens.
Mais tu sais quoi, comme tu m'as tendu la perche, je vais pas le prononcer maintenant, c'est trop facile sinon.
Non, mais il y a pas une marque qui fait des voitures dans Gran Turismo, il y a une voiture belge qui tourne bien.
Tu m'apprends quelque chose. Franchement, je pensais que la Belgique c'était non, faisons des gaufres et de la bière et des voitures, on va laisser ça aux autres.
Je vais me renseigner.
Sinon c'est vraiment la seule raison pour laquelle je regrette qu'il n'y ait pas assez de constructeurs, qu'il n'y ait pas vraiment d'équipe nationale avec de gros guillemets, quoi.
Alors à noter que du côté de Honda, il se murmure que Bernie Ecclestone aurait demandé à Honda de fournir une deuxième équipe, et que l'un des noms qui serait avancé, ce serait Sauber en 2015. Donc on pourrait avoir très bien là en 2015 McLaren Honda et Sauber Honda. Mais encore une fois, ouais, c'est de l'ordre de la rumeur aurait dit que elle avait dit.
Ouais, enfin bon. En même temps, F1, si rien n'est signé, tu crois rien, ouais, quoi.
Et donc Toyota, c'est via Lexus, hein, c'est ce qu'on avait pris pour un poisson d'avril, puisque c'était sorti le 1er oui. avril, mais visiblement, il y a d'autres sources qui sont ressorties, qui laissent entendre que effectivement Toyota sera intéressé pour un retour, voire même dès 2014, avec
ça,
Lexus.
Quand même, ça me paraît tôt, quand même. Ouais.
Alors, constructeur automobile belge. Gillette, putain.
C'est belge, Gillette.
Ouais. Mais c'est Gillette, J2LET.
C'est Gillette, non?
Ouais, ou Gillette, ouais. Il y a Minerva, il y a Imperia, il y a Pinard! Ah, il y avait, hein, parce que je pense qu'après, dans les marques auto, mais celle à laquelle je pensais, c'est Gillette. Enfin, Gillette. La perfection, mais. Avec la fameuse Vertigo.
Ah, oui. Ils ont fait des courses avec.
Oui. Vertigo, qui a été produit de 91 à 2011, qui a un V8, il sait faire un V8, 8 cylindres, bon, 4,2.
Attention, hein.
420 chevaux, une cylindrée de 4200 cm3, un poids de 900 à 950 kg, une vitesse maximale de plus de 300 km/h, le 0 à 100 km/h en 3 secondes.
Pas mal. Mais c'est beau, mais tu verrais quand même pas un constructeur qui a fait une caisse aller en Formule 1, quoi.
Oui.
Déjà Porsche qui est bien et qui ne va pas en Formule 1 et qui l'ont expliqué d'ailleurs, mais ah bon, c'est une utopie pour nous les petits Belges.
Donc voilà.
Ouais, ça fait 3 ça déjà.
Ouais.
Ça n'a même pas été un quart d'heure de l'invité. Je suis déçu, je reviendrai plus. Hein.
Donc ensuite, tiens, si tu veux, t'as le droit, si tu veux, de revenir sur un quatrième. Allez, on est généreux, ça.
Ah, comme c'est gentil. Bah, à ce moment-là, je vais venir sur Interlagos, et donc par extension Sochi, puisque je veux parler des circuits.
Il est malin.
Ça, c'est quatrième et cinquième. Bah oui.
Et fort.
Bah oui, ce serait trop con. Franchement, Interlagos est quand même un super circuit qui offre beau final de saison. Pourquoi aller voir ailleurs? Bon, peut-être qu'il y a des raisons de sécurité, mais c'est ce qui fait un peu le piment de la F1. C'est ce qui manque cruellement aujourd'hui en F1, c'est d'avoir des... Bon, c'est peut-être dégueulasse de dire ça, surtout pour les anciens fans qui suivent la F1 depuis très longtemps, mais des circuits un peu trop sécurisants, ça nous donne des pilotes un peu casse-cou qui ne regardent pas ce qu'ils font. Donc Interlagos, qui est un circuit assez dangereux, il faut à tout prix le garder, quoi. Et donc avoir l'apparition de nouveaux circuits comme Sochi, c'est quelque chose d'un peu dommage, puisque bon, on a des dégagements de 12 000 km, on a des pistes hyper larges, on a même plus de bac à ça. Enfin bref, moi je suis pour un retour en arrière. On revient vers les vieux circuits, on revient vers le centre, l'Europe, quoi, en somme. Hein. J'ai pas envie d'aller voir, enfin, que la F1 aille voir ailleurs, se mondialise. Ça, moi, ça m'intéresse pas. Je veux des belles courses, et les belles courses, elles sont en Europe.
De préférence en Belgique.
Aussi, de préférence en Belgique. Surtout qu'on n'a pas qu'un seul bon circuit, mais
non, c'est vrai,
oui, en Europe, évidemment, à Interlagos, quoi. Et enfin, les circuits qui offrent un mythe, on les garde. Interlagos offre un mythe. Tu vas pas voir ailleurs. Pourquoi on irait voir ailleurs, quoi?
Oui,
c'est bon. Voilà, moi c'est la seule raison. Enfin, le fait qu'on se pose la question, ça prouve qu'il y a quelque chose qui va pas à ce niveau-là en Formule 1.
Mais le pire en plus, c'est que c'est même pas pour les demandes de Bernie. C'est pas tant pour des questions de sécurité, des questions de confort. C'est-à-dire que c'est vraiment le paddock. Il veut revoir le paddock. Alors il y avait un projet de construction de paddock juste après le S de Senna, un paddock moderne et compagnie. Mais c'est voilà, ce qui le dérange lui, c'est le paddock. Il aurait eu une lettre du maire de Sao Paulo qui lui a dit qu'il y aurait des travaux de rénovation. Mais c'est vraiment cet aspect-là.
Il aura qu'à mixer ses hospitalités juste à Interlagos et il aura une raison d'y aller. Et là, je reviens sur un sixième. Oh la punaise. Je suis en feu.
Donc ensuite, quelle est l'actu dont tu n'as rien eu à foutre dans l'actualité de ces dernières semaines?
Dont je n'ai rien eu à foutre. Mais tout est intéressant, F1.
Ouais. Oh.
Non, franchement, l'actu dont j'en ai rien à foutre, je la lis pas. Donc je lis juste le titre de l'article, puis je le lis pas, donc j'oublie ce que je ne lis pas forcément. Donc je saurais pas vraiment te répondre.
Donc on va essayer de susciter ton imaginaire alors. Quelle actualité en dehors des Grands Prix aimerais-tu lire dans les prochaines semaines?
En dehors des Grands Prix, donc je peux pas.
Sinon tout le monde va nous dire ouais, là c'est la victoire de machin ou de machin et...
Non, moi j'avais pensé à Raikkonen chez Red Bull parce que ça peut être intéressant, mais en dehors des Grands Prix, faut savoir que j'ai pas beaucoup d'imagination, hein. Un deuxième Grand Prix de Belgique. C'est pas vraiment en dehors des Grands Prix, mais j'avais un deuxième Grand Prix.
Et tu le ferais où?
Mazolder.
Tout bêtement. Voilà. Tout bêtement. Il y a des circuits,
ouais.
Donc,
Ouais, non, mais je sais pas.
Ouais, c'est pas ça qui manque.
On va faire dans un circuit urbain, voilà. À Bruxelles.
Non, mieux. En fait, tu sais quoi, on va faire un Grand Prix de France. Comme ça, vous avez votre Grand Prix, mais en Belgique. À Zolder.
Non,
ouais.
Ça c'est bien, on en s'en fout. Paul Ricard, Manicourt, non, venez.
Moi je suis pour l'annexion de la Belgique, alors bon voilà. Si on commence à faire un Grand Prix de France là-bas, après ça donnera des arguments pour annexer la Belgique.
Non, pas l'annexion de la Belgique, l'annexion de la France par la Belgique. C'est mieux, ça c'est top. On aura tout, là. On aura des belles du vin, etc.
Putain, le vin belge. Ça sera alors, parfait, quoi. Le cassoulet belge. Tu te rends compte? Et donc, au contraire, quelle actualité, toujours en dehors des Grands Prix, n'aimerais-tu pas lire dans les prochaines semaines?
L'intégration de la France, de la Belgique par la France. Ça peut... non, je sais pas, un truc du genre Hamilton casse avec Nicole ou des trucs de people ainsi, ça j'ai strictement rien à foutre.
Non mais c'est voilà, c'est parce que t'en as rien à foutre. C'est pas parce que tu serais triste.
Ah oui, de ce point de vue-là. Ouais non, je n'aimerais pas la lire parce que ça me montre que en F1 on s'intéresse à de la merde. Voilà, donc je serais malheureux.
Mais pas sur Fan F1.
Non, évidemment.
Quoique là ça risque d'être une actu importante, donc s'il casse, on en parlera. Promis.
Il n'y a pas encore eu d'article sur son chien. Avant qu'il casse, il y aura au moins des articles sur son chien.
Oui.
Ouais. Bah ça, voilà, justement, pour répondre à ta question, j'arrive un peu en retard, ça, j'en ai rien à dire. Mais ça, c'est la question, tu me l'as posée il y a 12 000 ans, et voilà, comme ça j'aurais répondu.
Et donc enfin, est-ce que tu aurais un drive-thru of the weekend?
Du weekend, pas vraiment, mais j'ai un drive-thru, oui, c'est sur Hamilton. Bon, c'est pas vraiment un drive-thru, mais c'est simplement le fait qu'il ait déclaré dans la presse, oui, c'était la bonne décision d'aller chez Mercedes, je vous ai prouvé que j'ai bien fait d'y aller, mais il y a que 4 courses qui se sont disputées. Mercedes ont toujours été bonnes en début de saison, il faudra qu'ils confirment sur la durée, quoi. Le gars, on dirait qu'il a envie de montrer qu'il a eu raison, et peut-être que c'est le cas, hein, mais il va trop vite à le dire, et tout simplement, je veux dire, il croit qu'il va jouer le titre avec Mercedes, bon, ça c'est... Tout le monde se berce d'illusions comme il veut, mais surtout il croit qu'il fait taire ses détracteurs qui ont dit qu'il était c'était con d'aller chez Mercedes. Et c'est pas après 4 courses qu'il va nous prouver le contraire. Moi j'attends qu'il y ait une saison qui se dispute, voir où il en sera à la fin de la saison, et à ce moment-là après il pourra dire ce qu'il veut et après on pourra le critiquer ou l'applaudir comme on veut.
Mais c'est vrai qu'on a l'impression que Lewis il a un compte à régler, et je rebondis du coup sur mon drive-thru qui concernait aussi Lewis Hamilton, puisqu'il a déclaré ce week-end un peu avant le Grand Prix.
Ah oui, ça aussi, ça c'était vraiment dégueulasse.
Il s'était fait éconduire à Jerez du garage McLaren, et puis il avait aussi essayé d'aller dans le garage à Melbourne, je crois, et pareil il s'était fait conduire par Sam Michael qui est le directeur sportif, ancien de chez Williams et nouveau de chez McLaren depuis l'année dernière, et j'ai trouvé Lewis un peu naïf parce que son argument c'était de dire ouais je peux pas voir mes anciens coéquipiers mes anciens mécaniciens et compagnie, mais en même temps j'ai envie de lui dire il espérait quoi, enfin tu peux pas aller dans le garage de ton ancienne écurie même pour dire
bonjour, plein week-end,
en plein week-end ou même lors des essais, c'est juste un endroit tu ne peux pas aller dans le garage quoi. On n'a jamais vu Fernando Alonso aller dans le garage Renault une fois qu'il était arrivé chez Ferrari, parce que il y a aussi des trucs confidentiels. Voilà, c'est les pilotes et les mécaniciens de l'équipe qui sont dans le garage et c'est aux équipes de décider si elles te laissent rentrer ou pas. Donc j'ai trouvé sur ce coup-là Hamilton un peu naïf et surtout encore une fois c'est encore une déclaration contre McLaren et faut qu'il arrête quoi, faut qu'il arrête de regarder derrière, on a l'impression qu'il règle des comptes avec cette équipe, non, qu'il regarde devant lui. Bon, aujourd'hui il a dit un truc de bien par rapport aux consignes, à l'absence de consignes chez McLaren, donc c'est bien, mais bon, faut qu'il arrête à chaque fois qu'il arrive sur un Grand Prix, on a l'impression qu'il faut qu'il sorte un truc sur McLaren quoi. C'est à la limite c'est à Jerez qu'il fallait dire merde je me suis fait conduire de chez McLaren, c'est dégueulasse, c'est pas au Grand Prix du Bahreïn 2 mois après quoi.
Bah, à part ça, ça part peut-être d'une bonne intention d'aller voir ses anciens collègues, mais c'est surtout la manière avec laquelle il a dit ça. Il a pas dit j'étais pas invité dans le box. On m'a jeté dehors. Sam Michael m'a jeté dehors. Alors que on est tous, quand on lit ça, moi j'ai tout de suite deviné qu'en fait il exagérait et qu'il y a un gars de chez McLaren. Bon, il s'est avéré que c'était Sam Michael qui lui a dit simplement. Ici, c'est on oui, travaille, ouais. Quoi. Donc t'as rien à faire ici. Mais le mec, s'il est un peu rustre en le disant, c'est Hamilton qui entend. Donc c'est à lui. Enfin, il n'a pas à critiquer McLaren pour oui. Ça, quoi.
Non, puis enfin c'est pareil. Même pour lui, enfin il faut imaginer, par exemple, enfin ça se présentera pas, parce que Schumacher n'est plus en compétition. Mais imaginez que Schumacher, s'il avait été encore en compétition, viendrait tailler la bavette avec les mécanos, ses anciens mécanos et compagnie. Tu dirais c'est un peu bizarre. Donc c'est pas non plus élégant vis-à-vis de Pérez que de venir dans l'équipe, faire coucou, voilà, en parlant avec les mécanos et indirectement, voilà, tu places aussi d'autres pilotes dans un truc où il se dit ah bah le mec il est encore chez lui, là même il est dans une autre équipe. Mais il a encore des bons contacts. Voilà, tu peux le faire en dehors, mais pas dans le garage, pas dans le lieu de travail de ton ancienne équipe. Et toi, Shinji, tu as un drive-through ?
Oui, moi, c'est une petite déception que j'ai eue vis-à-vis de Canal+, parce que, en fait, juste avant la grille, il y avait le journal, hein, normal, vers midi, et à un moment, le présentateur a évoqué le fait que le Grand Prix se passait, évidemment, dans un contexte tendu, et avec un duplex avec Thomas Sénécal. Et donc, sur le coup, je me disais, tiens, voilà, au moins, enfin... Je m'étais dit, tiens, peut-être qu'ils vont parler de ce qui se passe à Bahreïn, d'en profiter, peut-être qu'on va on va apprendre des choses. Parce que, voilà, aller un petit peu au-delà du traitement sportif, parce que c'est vrai qu'il s'est passé des choses. Et au final, en fait, on n'a rien appris. Et ça, j'ai trouvé ça frustrant. Dans le sens où je me suis dit, mais pourquoi faire ça?
Oui.
Parce que, voilà, Thomas Sénécal répond, il dit, ouais, il y a des troubles et tout ça, c'est tendu, point. Par exemple, il a pas parlé de l'équipe d'ITV qui a été renvoyée du pays.
Oui.
Parce qu'il faisait une enquête, enfin, qui faisait un reportage sur ce qui se passait aux alentours. Donc j'ai trouvé ça dommage. Je me suis dit, pour le coup, bah, soit vraiment vous décidez de parler. En plus, c'est bien, c'est que c'était dans le journal, pas dans l'émission La Grille. Donc dans un contexte vraiment où, à la limite, pour le coup, ils auraient pu en profiter pour évoquer ce qui se passait dans ce pays-là. Mais il y a rien eu, donc je me disais, soit ils y vont à fond et ils nous disent ce qui se passe, soit ils ne le font pas, ils font un traitement purement sportif, mais dans ce cas-là, ils font pas une intervention pour rien, juste pour nous apprendre ce qu'on sait déjà,
oui.
Qu'il y a eu des manifestations, qu'il y a des gens qui ont voulu aller jusqu'au circuit, qu'ils ont été empêchés d'aller jusqu'au circuit.
C'est vrai que c'est surtout le principe, à la limite, que tu fasses un reportage, c'est vrai que c'est aussi difficile pour les médias là-bas de s'exprimer,
oui.
Sur le régime, où on sait très bien que justement, il y a une équipe d'ITV qui a fait un reportage là où ils auraient pas dû et qui se sont fait virer.
Mmh.
Mais dans ce cas-là, pourquoi effectivement faire un duplex avec Thomas Sénécal si
pour
c'est
ne
pour
rien
savoir
apprendre,
que hein. Le mec va rien te dire, parce que de toute façon, il peut pas te dire oui. Grand-chose, ça serait mettre Canal+ dans une drôle de position.
Mmh.
Autant que tu te dises, voilà, on va profiter de l'événement où on fait un reportage, où là, tu te sers vraiment, tu insistes sur les faits marquants et compagnie,
voilà.
Mais sans engager toute l'équipe de la F1, comme ça, on pourra pas t'accuser de dire, vous avez envoyé l'équipe de F1 pour faire la propagande anti-gouvernementale, tu pourras juste dire, bah écoutez, nous, c'est la rédaction à Paris, ils ont fait
voilà,
ça,
en plus,
c'est
c'était
leur choix.
Dans le cadre du journal, donc ça, ouais. Ça, voilà, ça aurait pu bien se faire. Ou alors ils ne font rien et ils disent bon on traitera ça que du point de vue sportif parce que de toute façon on peut pas avoir d'informations. Mais là c'était un peu bancal, on sentait qu'ils voulaient en parler mais que finalement ils n'avaient rien à dire. Et c'était triste, quoi.
Alors, comme tu parlais de déception sur Canal+, je vais quand même revenir sur... J'ai hésité entre deux drive-through. J'avais un drive-through de réserve pour Jacques Villeneuve. Ça serait quand même bien... J'aime beaucoup le côté un peu polémique qu'il apporte. On n'est pas forcément d'accord avec lui et compagnie. Maintenant, ça serait quand même bien que dans ses fiches, il fasse un peu attention et qu'il révise un petit peu aujourd'hui les règlements ou ce genre de choses pour éviter de dire des bêtises. Il en a encore dit quelques-unes cette semaine. Une que je suis obligé d'avoir noté qui concerne Heikki Kovalainen, puisqu'il a, pour justifier son propos qui était de dire que Heikki Kovalainen n'avait pas fait grand chose, il s'est appuyé en disant bah vous voyez de toute façon il a rien fait face à Alonso. Oui, mais ils ont jamais été coéquipiers, donc tu peux pas, ça discrédite totalement ton propos et ton analyse que de dire qu'il a rien fait face à Alonso. Bah oui, effectivement ils ont jamais été coéquipiers, ils ont été dans la même équipe à un moment donné, mais jamais coéquipiers. Encore une fois, c'est toujours pareil, c'est quand t'as une opinion aussi tranchée que lui, il faut être infaillible sur les faits et éviter de faire des conneries, ou en tout cas prendre des précautions quand tu affirmes un truc.
Ouais, moi aussi, Villeneuve, ce mec-là, j'insupporte, enfin, il m'insupporte, ce mec. J'ai l'impression qu'il a envie d'avoir autant d'aura qu'un Niki Lauda qui, lui, ne mâche pas ses mots, mais est juste souvent dans ce qu'il dit, alors que Villeneuve, souvent, oui. Raconte d'énormes conneries.
Donc voilà, sur ça, c'est tout pour le quart d'heure de l'invité.
Bah oui.
C'est un beau quart d'heure.
Ouais, tu vois.
Je suis d'accord.
Eh bien, messieurs, je vous propose de passer à la course, et on va commencer par les qualifs. Et, ce ne sont pas deux Français cette semaine. Il n'y a pas de Français parmi nos deux guignols de la semaine. Oui, on va quand même garder guignol, c'est plus gentil. On peut quand même noter que cette semaine, c'est Charles Pic qui a été plus rapide que Jules Bianchi.
Bah, des nouveautés sur la caterham. C'est-à-dire que, Cyril Abitboul, il a expliqué sur Canal+, qu'ils avaient amené tout ce qui pouvait être amené, du package de Barcelone. Et en plus à ça s'ajoute donc les analyses de Kovalainen qui était semble-t-il là juste seulement pour donner son point de vue sur les pneus et qui a déclaré que il sentait du potentiel dans la voiture mais qu'il fallait vraiment être sûr des réglages et que les réglages n'étaient pas bons en fait. Donc il y a quand même une grosse marge de progression et là on a senti ça arrive ce week-end un
on
gros
a senti
boost,
ouais qu'il y avait ouais que ça allait mieux quand même pour Caterham. Et donc cette semaine 18e Esteban Gutiérrez devient une habitude. Et
ne retiens pas son nom,
oui, ça sert pas, ça sert à rien.
Je crois qu'il a pas terminé une course depuis le début de la saison aussi.
Ce week-end, il a fini, je crois, la course.
Ah, il l'a fini, tiens. Ah
ouais. Il l'a fini.
Derrière Charles Pic, mais il l'a fini.
Oui, oui, c'est ça le truc. Il a réussi à finir derrière Charles Pic. Et Pastor Maldonado. Ah, elle est bien, cette Williams, cette année. C'est dingue, hein, quand même. Alors que l'année dernière, quand même, c'était très prometteur.
Tu vas voir que Barrichello va demander à revenir. Je vais tout résoudre chez...
Il était dans le paddock. Il était chez Ferrari.
Pour la télé.
Ah, mais arrête, moi, quand j'ai vu Barrichello avec un truc rouge sur le fond Ferrari, j'ai failli avoir une attaque cardiaque.
Mais non, mais attends, parce que je crois qu'il est, il était consultant pour,
ouais, je me sens que pour la
pour
télé...
une télévision brésilienne.
Ouais.
Ah.
Parce que je l'ai vu, ou peut-être une télévision italienne, parce que je l'ai vu à côté d'une journaliste qui interviewait un pilote. Je crois que elle interviewait Massa, et il y avait Barrichello à côté d'elle avec la même tenue orange rouge.
Ah.
Donc c'est sans doute TV Globo ou un truc dans le genre, ou peut-être une télévision italienne.
Tu veux dire que même au Brésil, il aurait plus de volant?
Mais il faisait du stock car brésilien,
stock car,
je crois,
brésilien,
de la Chevrolet ou un truc dans le genre. Et bon, voilà.
En Q2, en 16e place, Jean-Éric Vergne. Encore une fois, il est toujours un peu dans ces eaux-là, en qualif. Derrière Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg, 14e, Ricciardo, 13e, Sergio Perez, 11e place, et Romain Grosjean, 11e. Avec son mot du jour, le mot du samedi pour Romain, c'était débile.
Ouais. C'est le mot de trop. C'est, voilà. C'est le mot de trop. Parce que c'est dommage, parce que, en plus, sur le reste, il dit on. C'est-à-dire que pour une fois, il cible pas l'équipe, il dit nous. Hein. Donc c'est vraiment qu'il s'inclut dans le truc. Mais il finit par débile, et c'est vrai que, bon, ça, en termes de com, c'est le mot qui ressort, et on a un peu l'impression
qu'il était en mode lunettes baissées, et pour y avoir repensé ce week-end, en fait, c'est complètement vrai, hein, Romain Grosjean. C'est pas la peine de lui poser une question. Vous regardez comment sont ses lunettes de soleil, vous savez quel est le mental de Romain Grosjean. S'il fait la gueule, il a les lunettes, les yeux derrière les lunettes.
Bah, apparemment, c'est à cause des pneus médiums que la Lotus n'a pas fait mieux que 9e. Parce que je crois qu'Eric Boulia a annoncé ça aujourd'hui, que c'était juste les pneus médiums qui mettaient Lotus dans la merde, et qu'il fallait qu'il regarde à ça, quoi. Donc pour une fois, Grosjean n'a pas à s'en vouloir.
Il y a quand même une stratégie, bon, c'est vrai que ça passe pas pour 9 millième ou 9 centième, je crois. Ouais. Bah, vraiment pour pas grand chose.
Parce que les autres ont fait deux tours, en fait, à la suite. Et lui, on a fait.
Mais voilà, il fait un tour à trois tours. Je dis même, à la limite, quitte à économiser des pneus, tu te ménages quand même une marge en disant, on se laisse de la marge pour faire deux tours chronométrés avec ce train-là. On met un premier tour, si jamais le tour est pas bon, on peut essayer d'en faire un deuxième derrière pour essayer au moins de faire un bon temps.
D'ailleurs,
il s'était vraiment laissé la marge juste pour faire un seul tour. Il n'y avait pas de marge derrière, quoi.
D'ailleurs, j'ai moyennement apprécié. C'est Alain Prost qui a dit dans Formula One. Oui, mais quand on voit comment ça s'est passé après, finalement, c'était pas si idiot que ça. Oui, mais sur le coup, samedi, non, c'est pas bien ce qui s'est passé parce que ils n'avaient pas prévu qu'ils fassent 11e.
Oui.
Hein. C'est facile de dire a posteriori, oui, bah les choses ont bien tourné finalement, mais sur le coup, samedi, non, et d'ailleurs, bah, la preuve, on a vu comment il avait répondu, lui-même n'était pas content. Il n'était pas en train de dire, non, mais c'est normal qu'on soit vraiment derrière. Non, non, pas du tout. C'était un mauvais samedi pour ça.
Le point de vue de Prost, c'était de se dire, ils ont économisé un train pneu et ça a servi à la course parce qu'effectivement,
voilà,
il avait plus de pneus. Mais le but de Grosjean, quand même, et le but de ce qu'il faisait, c'était pas de terminer en Q2, c'était quand même de passer en Q3. Donc, c'était d'avoir une meilleure position et c'est pas du tout la même stratégie derrière. Donc, c'est sûr que ça s'est avéré profitable et que en partant 11e, on devrait jamais véritablement être déçu de partir 11e aujourd'hui en Formule 1. C'est la petite pole. Sur le coup, c'était pas ce qu'ils voulaient faire. Je pense pas que leur but c'était de dire on finit 11e et on a des pneus à plus les compter pour demain.
Et sinon, en Q3, Jenson Button qui n'a pas fait de temps. Oui, bon, un tour en 4 minutes. Pourquoi faire, hein? Donc Raikkonen 9e, hein, tu disais le problème avec les médiums. Raikkonen qui allait bien en Q1 et en Q2, mais alors en Q3, il s'est troué, quoi.
Oui, mais il peut pas se plaindre de sa voiture.
8e place, Adrian.
Il a pas le droit de se plaindre, Raikkonen. Désolé. Non, mais ça c'est terrible, mais ça c'est un argument que moi sincèrement, je serais Grosjean à la prochaine occasion, je le balance. Hein. C'est énorme, écoutez, il peut pas se plaindre.
Deuxième voilà. Place, victoire.
Non, mais surtout c'est pour le coup, on a vu que la Lotus n'était pas non plus aussi bonne que ça et qu'il y avait quand même des difficultés avec cette voiture et que donc ça sortit la phrase de Kimi Raikkonen le week-end dernier où il avait dit que Romain Grosjean n'avait pas de raison de se plaindre. Bon, bah, mine de rien quand même, Kimi Raikkonen. Verstappen, il a aussi des raisons lui aussi de se plaindre. La voiture est pas non plus infaillible.
Ça n'est pas la plus rapide, hein.
Voilà. Et donc du coup, ça, moi, ça me précise bien ce que je pense, c'est que Kimi Raikkonen était bien content de voir Romain Grosjean galérer et que il lui a mis la tête dans le sable en se disant, il s'enfonce bien la tête comme ça, il va être bien dans la merde, parce que je pense que Kimi Raikkonen a un peu peur de Romain Grosjean. Je vais m'attirer la foudre des fans de Kimi Raikkonen.
Ah, ça, je laisse répondre Shinji.
Non, mais c'est vrai que sa réaction, moi-même, je l'ai dit la semaine dernière, sa réaction en face de Grosjean m'a surpris. Parce qu'habituellement, Raikkonen, c'est vraiment le type qui en a rien à foutre de son coéquipier.
Et là, ça prouve qu'il en a quelque chose à faire.
Là, ça veut dire quand même qu'il en a quelque chose à faire. Et puis, alors, ce qui est dingue, parce que, très honnêtement, en ce moment, il est le leader de l'équipe. Il y a pas de doute.
Non,
c'est
mais...
qu'il sent. Non mais c'est... bah oui, non, quand même, quand tu vois les résultats, il y a pas de doute quoi. Et doit se dire quand même que Romain, il y a un gros potentiel et que on sait jamais, les choses peuvent peut-être se retourner si les choses justement commencent à bien marcher pour Romain Grosjean.
Ou alors il a décidé déjà d'aller chez Red Bull. Même s'il dit qu'il veut pas en parler, ça se trouve il a déjà décidé, il se fout de l'équipe, il se fout de son coéquipier, il se fout de se mettre qui que ce soit.
Je sais plus d'ailleurs où j'ai entendu, je me demande si c'était pas en Formula One. Ça serait bien que maintenant pour progresser, il y ait de la communication dans l'équipe sous-entendu entre les pilotes. Tu dis non, c'est pas possible ça. C'est...
Ah, l'année prochaine, oui, un Kimi Raikkonen Vettel, ça va communiquer, hein, Max.
Donc, je disais, alors, tir groupé des Force India, 8e Sutil, 7e Di Resta. Très bonne Force India. Qui font globalement un bon début de saison.
Paul Di Resta au niveau de Sutil, comme, c'est pas mal, quoi. Enfin, je m'attendais à ce que Sutil domine, moi, personnellement.
C'est vrai qu'ils font un bon début de saison.
Mais c'est
en
Paul Di Resta,
générale, déjà, mais ils sont assez mal payés. Enfin, tu vois, le Grand Prix de Malaisie où ils sont en bonne position pour faire une double arrivée dans les points, ils abandonnent. Tu vois, en Chine où il y en a un qui abandonne. Tu vois, ce week-end encore, il y en a un qui est en difficulté dès les premiers tours. C'est dommage parce qu'ils ont vraiment la voiture pour être, on l'a vu ce week-end, pour être vraiment dans le top 10 à chaque fois. C'est une très bonne voiture, sincèrement, ce week-end. C'est la qualification de Di Resta est même un petit peu décevante de ce point de vue-là. Heureusement qu'il gagne des places grâce aux pénalités. Mais elle est un peu décevante parce qu'il a été très très rapide tout le week-end. Et il pouvait peut-être même mettre un peu plus haut, je pense, sur la grille.
Massa fait la 6e place, Mark Webber 5e temps, Lewis Hamilton 4e, Alonso 3e, Vettel 2, et donc sa 2e pole, Nico Rosberg.
Ouais, qui nous a surpris quand même. Enfin,
c'était
vendredi,
pas
c'est là, on n'a pas d'équilibre, rien. On va souffrir en qualification. On a travaillé pour la course. Et je me demande d'ailleurs si Rosberg ne s'est pas fait un petit péché d'orgueil en allant chercher la qualif, parce que en comparaison, par exemple, Hamilton ne fait pas non plus un. Il est 4e, je crois, et il fait pas
oui,
un tour.
Quatrième.
Et je me demande si Rosberg a pas adopté un réglage un peu plus agressif pour la qualif, histoire de bomber un peu le torse, et il l'a un peu payé en course. Quoi.
À mon avis, c'est ce qui s'est passé parce que. Enfin, faut qu'il se montre, Rosberg. Parce que Hamilton, c'est quand même un grand morceau, et apparemment, c'est Hamilton qui a la préférence de l'équipe. Donc si Rosberg n'agit pas, ça, il va terminer sa saison. Il va mal terminer sa saison.
Hamilton, il a déclaré qu'il voulait pas que Rosberg parte. Tu m'étonnes, c'est lui qui donne les consignes.
et pourtant, à ce qu'en dit Hamilton, les consignes, il est contre.
Ah oui, non.
Il applaudit Wismarsch quand il dit les pas de consignes chez McLaren. Hamilton qui dit ouais, c'est bien. Pourtant, à mon avis, il serait content. Et d'ailleurs, il l'est.
En même temps, faut dire un truc. Chez Red Bull, ils nous ont souvent dit il y a pas de consignes et il y en a. Chez McLaren, je veux dire que ce week-end, quand ils disent, il y a pas de consigne,
y en a
on
pas.
Les croit.
Ouais, chez Red Bull, il y avait pas de consigne en 2010, mais depuis ça a été légalisé, ils le font quand même, quoi. Sinon, avant, ils disaient pas de consigne. Effectivement, il y a pas de consigne, mais sinon.
C'était donc la 2e pole hein, pour Nico Rosberg, à peu près un an après sa pole en Chine, qui s'était mieux terminé. Enfin, il y avait eu un meilleur résultat à la fin. C'est
oui, là. Il avait que Schumacher comme équipier, donc là, il avait pas besoin de faire des réglages, uniquement qualif. Hein.
Le mec, il disait, allez, mettez-moi le mulet, c'est pas grave.
C'était la 11e pole pour l'écurie Mercedes et la 93e pour un moteur Mercedes. Alors, à noter, hein, par rapport à ces places, il y a eu quelques pénalités. Alors, il y a celles qui ont été héritées de Chine. Gutiérrez qui a donc reculé de 5 places pour avoir causé un accident en Chine. Webber de 3 places pour un accident, mais c'était pas pareil. Donc, lui, c'est 3 et pas 5. Et Hamilton, 5 places pour changement de boîte de vitesse. Entre les libres 3 et les qualifs. C'est suite à ce qui s'est passé à l'arrière gauche de sa, oui, c'est ça, la suspension arrière gauche de la Mercedes.
Alors, il y a un truc qui m'a étonné sur la Mercedes, sur les images qu'on montrait Canal Plus, qui ont été filmées donc au moment où il rentre des stands et où il abandonne sa voiture. D'ailleurs, j'ai pas compris. D'ailleurs, je comprends pas qu'un pilote abandonne sa voiture comme ça et il y a les journalistes et tout, il y a pas encore les mecs de Mercedes et le mec il descend, il se barre. Moi, je sais pas, j'aurais attendu. Genre, je fais un peu rempart, tu vois, avec mon corps. Et non, ils s'en foutaient que les gens regardent la voiture. Et ce qui m'a étonné, c'est que sur la fameuse suspension qui était cassée, j'ai cru voir du scotch sur tout le long du profil arrière de la suspension. Pas le scotch transparent, l'espèce de scotch opaque.
Le tape.
Le scotch à papier cadeau, il est opaque.
Ah d'accord.
Et j'ai vu ce scotch et je me suis dit tiens, c'est drôlement bizarre.
Je te dis merde, ils ont mis du tape quoi.
Ils mettent du scotch. Alors on se rappelle que l'an dernier, il y avait Red Bull qui mettait un produit un peu visqueux ou je sais plus quoi sur les voitures pour justement le flux d'air et compagnie. Alors est-ce que c'est pas un moyen qu'a trouvé Mercedes de mettre du scotch sur les bras de suspension pour rediriger un peu le flux d'air ou créer des perturbations ou je sais pas quoi.
Du scotch.
Mais je te jure,
on parle quand même d'une Formule 1, un truc qui est composé de carbone, de métal, des bouts de polymère sans doute.
Oui, mais du carbone, parties. Non mais du carbone, c'est de la voiture, donc du coup c'est réglementé. Alors que du scotch, c'est un truc, tu peux très bien dire en quelle expression, bah écoutez, nous, généralement, on met du scotch là pour l'emballage, c'est resté, bon,
c'est resté, comme par
on va le retirer, écoutez, mais...
La prochaine fois, chez Lotus, hein, on badigeonne de colle UU l'aileron arrière, hein, et puis on regarde ce que ça fait.
Bah c'est soit ça, soit les restrictions budgétaires de Max Mosley payent enfin.
Oui. Alors oui. Après je me suis dit, ça se trouve la suspension avait déjà pété et les mecs ont essayé de la réparer avec du scotch. Vas-y Lewis, on a fait une réparation.
Mais c'est, voilà, ils se sont dit, Ferrari répare un DRS en tapant dessus, nous on va réparer une suspension avec du scotch.
Ah, mais attention, hein, c'est du scotch Dutch Qualitat aussi. Hein. Alors Dino, on va passer à la course. Peux-tu nous indiquer les pilotes qui ne font pas partie du top 10 cette semaine ?
Oui, je le peux, Shinji, et je vais le faire. En commençant par... ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été bon dernier avec 25 points, Daniel Ricciardo. 21e position pour Esteban Gutiérrez, l'homme dont vous n'avez pas besoin de retenir le nom, 28 points. Pour son anniversaire, Max Chilton, 20e avec 30 points seulement. 19e, Valtteri Bottas, 57 points. 18e, Van der Garde, 72 points. Ça, je sais pas d'où ils viennent, ces 72 points. 17e, Jean-Éric Vergne, 75 points. 16e, Maldonado, 85 points. 15e, Hülkenberg, 97 points. 14e, Adrien Sutil, 140 points. Là, on arrive. Attention, suspense. En 13e position, il est français. Il est en fond de grille. Il a marqué 158 points. Il est derrière un autre français. C'est
Charles
Jules Bianchi, avec 150 points. Et enfin, justice est rendue à Charles Pic, puisqu'il est 12e, avec 332 points. Ce qui n'est pas suffisant pour marquer des points, dommage.
Non, cette semaine, non.
Et enfin, Mister Eleven, cette semaine. Il est grand, il est beau, enfin, à en croire, Madame Elder. C'est Marc Weber, avec 581 points.
J'ai une question, j'ai une remarque. Est-ce que ils ont un Mexicain sous la main chez Sauber? Non, parce que si ils sautent, ils vont le remplacer par un autre Mexicain. Mais est-ce qu'ils en ont un?
Alors, Monisha Kaltenborn a dit que il fallait lui laisser le temps et que voilà, il allait progresser.
Oui, c'est ce qu'ils disent tous.
si Guterres fait de la merde et qu'ils doivent trouver un autre pilote, ils n'ont qu'à se venger de McLaren qui a été piqué Perez et prendre un jeune espoir de McLaren en la personne de Stoffel Van Dorn.
Bravo!
Par contre, il faudra qu'il soit naturalisé mexicain, hein. Parce qu'attention, hein, c'est le baquet mexicain chez Sauber.
Bah, la Belgique n'aura qu'à annexer le Mexique, hein. Après la France, tranquille.
À noter que, moi et Dino, on a donné 2 points à Charles Pic. Chacun. Parce que, il a été devant Bianchi, la Caterham, on l'a dit, relativement mieux marché cette semaine.
Mais ça confirme vraiment ce qu'on dit, hein, depuis le début de saison, c'est que, Charles Pic, jusqu'à présent, il se battait avec une voiture qui n'était pas au niveau de la Marussia. Et là, on voit, il a suffi d'abord du circuit qui leur convient peut-être mieux. Il a suffi de quelques pièces, d'un peu plus du regard de Kiko Valainen sur les réglages, peut-être pour donner quelques orientations. Donc ça montre bien que il manquait quelque chose à cette écurie jusque-là et que Charles Pic fait du très bon boulot depuis le début de saison.
Sinon, Alex, tu as donné 4 points à Marc Weber.
Ouais, franchement, le fond de top 10, je trouvais plus qu'y mettre. Hein. Mais moi, j'ai apprécié tout de même sa défense face à Hamilton, même s'il l'a perdu, c'était un beau duel. Donc je mis là, c'était mon seul argument pour le mettre 8e.
Et c'est vrai que quand on voit les commentaires qu'il y a eu sur Fan F1, on a été nombreux, hein, à avoir du mal à en mettre 10. Souvent, ouais, ça allait jusqu'à 7, 8, et puis bon, après...
Mais ça, on peut remercier Pirelli, parce que franchement, c'est le bordel en course, donc on sait plus qui mettre dans le top 10.
Alors, pour même te dire qu'à tel point qu'il y a des gens qui ont eu du mal à mettre 10 pilotes, je peux vous dire que cette semaine, nous avons été 189,89 à voter. Bon, normalement, c'est pas possible. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui a oublié un pilote ou deux.
À noter, un top 10 assez dense hein, cette semaine. Donc déjà, oui, en effet... Le dixième a quand même 710 points.
Ouais.
C'est quand même pas mal du tout. Et c'est Jenson Button. Button, je lui ai donné 4 points, comme toi, Dino. Alex, tu lui as donné 2 points.
Ouais, il s'est tout de même bien battu pour un pilote réputé oui, mais bon, enfin, c'est vrai que face à Perez, il a dû se montrer. Enfin, il s'est peut-être laissé un peu trop croquer. Non, j'ai bien de faim. Il a pas fait une excellente course, mais c'est tout simplement la communication à l'équipe, genre calmez-le. Enfin, je veux dire, les trucs classiques qui m'ont paru marrants, mais encore une fois, c'est le fond de top 10. Il fallait vraiment le remplir.
Moi, c'est pareil, c'est le fond de top 10.
Ouais.
Ouais. Je l'ai mis vraiment parce que effectivement, dans la bagarre avec Perez, c'était une bagarre qui était. On y reviendra plus en profondeur avec Perez, mais c'était une bagarre quand même qui a montré que Button était quand même quelqu'un qui avait cet instinct de la course, il savait se battre. Et c'est justement ce qui est un peu dommage, c'est qu'il soit obligé un peu de geindre à la radio pour dire à calmez-le et compagnie, alors qu'il sait se battre. Et pour moi, il a été à un moment donné, il a manqué justement un peu de sang-froid en foutant Perez dehors dans le virage 4 où il le fout dans le sable. Et là, pour le coup, c'était pas nécessaire. Et encore une fois, on est dans cette logique qui consiste à dire que quand tu vas faire un reproche à ton coéquipier et quand tu viens gueuler à la fin de la course en disant ouais il a pas été propre dans ce qu'il a fait, tu t'arranges toi-même pour pouvoir dire ça sans qu'on te le reproche, et c'est ce qu'a fait Perez derrière, c'est qu'il lui a dit bah oui d'accord j'étais à la limite mais lui aussi. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que Button
Coup c'est 50-50 hein.
On peut comprendre lassé des attaques de son coéquipier et du harcèlement que faisait Perez sur lui, on peut comprendre qu'à un moment donné il disjoncte, mais bon lui aussi dans le virage 4 il le fout bien dehors et pour le coup ça manquer un peu d'élégance. Mais sinon, il fait une course, une course en dehors de cette bataille. Disons qu'heureusement, il y a eu la bataille pour montrer un peu ce dont il était capable, parce que ce week-end, il n'a pas fait grand-chose.
Bah oui, enfin, il part 10 et il finit 10.
Ouais, bravo. Il finit juste derrière Rosberg.
Oui.
Mais non, c'est pas lui qui remonte, hein, c'est Rosberg qui se casse la gueule.
ça tombe bien, puisque au classement du SAV, il est aussi derrière Rosberg.
Truc de dingue.
Rosberg, 789 points. On lui a tous les trois mis un point.
Pour la pole, je pense.
Pour la pole.
Oui, exactement.
Pareil, Rosberg un peu c'est à la limite peu... hein, dans son pilotage et dans ses défenses.
Ouais, au tout début, ouais.
Ouais, mais il s'est amélioré par rapport à l'année passée, il mettait carrément les gens dehors. Bon, ça. Voilà, dixième... remplissage de top 10 et puis une pole, donc ça justifie une dixième place.
Il est resté dans les cordes, on va dire, quand même, mais c'est vrai que son début de... sa résistance au début, c'était pas mal, ça zigzaguait pas mal, mais il y avait aucun espoir, quoi.
Mais encore une fois, les Mercedes, comme l'année passée, elles zigouillent leurs pneus, mais d'une force, c'est incroyable, quoi. Il tient 2-3 tours face à Vettel, je sais plus exactement, et puis après, il dégringole, quoi. Et ça, ouais. Si Mercedes arrive à résoudre ce problème-là, là, Hamilton pourra dire, j'ai fait
Hamilton,
mon choix.
Hamilton, il dit déjà, j'espère qu'en Europe, il fera frais. Parce cet été, il fait aussi chaud, enfin, il faisait très chaud à Bahreïn, sans doute.
Mais c'est ça aussi,
les mêmes soucis que l'an dernier, quoi.
C'est ça aussi qui fait que Hamilton, il devrait un peu se calmer dans cette déclaration. La semaine dernière, il dit, ah oui, je vais me battre pour le titre. Et là, cette semaine, il dit, oh, j'espère qu'il fera froid. On a un peu l'impression que toutes les semaines il réécrit l'histoire, mais voilà, il s'était fixé une ligne qui était une ligne modeste de dire on va essayer de faire des bons résultats et compagnie. Fallait qu'il le garde le plus longtemps possible. Faire ce que fait généralement Alonso, c'est il tire jusqu'à la fin de saison. Non, je me fixe rien. Même Vettel, il a ce discours-là qui consiste à dire moi je regarde pas le classement avant le mois de, j'y jetterai un œil cette année lors de la trêve et compagnie, et de dire pour le moment c'est je prends les grands prix les uns après les autres. Là, le problème, c'est qu'on a un peu l'impression qu'Hamilton, il change d'objectif après chaque Grand Prix. Bientôt, il va nous dire, bon, en fait, je revise le top 10.
Il devrait le dire en fin de saison, ça, c'est sûr. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je crois.
À la 8e place, il a été le grand agitateur. On a parlé de son coéquipier, hein. Il a déjà annoncé, Dino, on va parler de lui.
J'ai la chanson de Jean-Pascal dans la tête. Je suis un agitateur, un perturbateur.
991 points. Tu l'as mis 5e, Dino, comme Alex. Moi, je l'ai mis 6e.
Ah ouais, moi, pour moi, c'est le fait qu'il se montre enfin avec McLaren, et surtout le fait qu'on lui reprochait d'être beaucoup trop tendre. Même Martin Wimmer, je lui avais dit, après la Malaisie ou la Chine, je crois, il lui avait dit, voilà, il lui avait dit ça, et maintenant, il le fait, Button se plaint, mais il faut aussi que Perez montre les dents, parce que sinon, Button va clairement s'imposer en numéro 1, s'il continuait comme ça, en tout cas. Et là, Perez, il a fait ce qu'il fallait pour rééquilibrer la balance chez McLaren. Donc, moi, ça me justifiait la 5e position. Et je trouve qu'il a fait, malgré sa petite perte à l'aileron, il a fait quand même globalement une très bonne course. Je crois que c'est le meilleur résultat de McLaren cette saison. Je crois que c'est égalité avec Button en Malaisie ou un truc ainsi. Non, c'est pas en Malaisie. Enfin, c'est un très bon résultat pour McLaren, c'est un des meilleurs. Donc, ouais, Perez, il s'affirme tout doucement et je crois qu'il va monter en puissance tout le long de la saison.
Qu'il soit aussi agressif contre Button, quand même, ça m'a étonné. Bon, déjà, contre les autres équipes, voilà, on a vu que lui. Mais alors qu'il le soit aussi contre son coéquipier, je me suis dit, non. C'est pas possible. Et si.
Mais c'est vrai que
Peut-être qu'il se disait aussi que Button, c'est quand même le gars gentleman en course, il va jamais aller chercher l'accrochage. Donc t'as plutôt tendance à te dire, bah Button, ouais, il est correct. Je peux dépasser un petit peu la limite, évidemment, sans trop exagérer, mais à mon avis, il se dit, avec Button, c'est safe, passer et essayer de forcer un peu le passage.
On peut dire qu'il n'a pas dépassé la limite. Il n'a reçu aucune sanction.
Non.
Ouais. Et d'ailleurs, ça c'est bien. J'ai vu que cette année, les commissaires allaient mettre moins de.
On a demandé d'être plus souple.
Et de prendre leur temps aussi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dès qu'il y a un truc, c'est après la course. Après la course, après la course.
Et mais là surtout ce qui est assez symptomatique, je trouve, c'est que ce qui peut expliquer qu'il ait été agressif avec Button, c'est que aujourd'hui c'est lui qui doit battre, c'est-à-dire que c'est pas les autres qui doivent battre, c'est lui qui doit battre, parce que sa position dans l'équipe fait que aujourd'hui le leader c'était devenu Button. D'ailleurs, dans ses commentaires, Villeneuve le disait, oui, c'est Button qui tient la baraque depuis le début de l'année et compagnie. Bah oui, mais justement c'est à ce moment-là qu'il faut que Perez se réveille pour changer ça, parce que si au bout de 3 grands prix le mec déjà il se conforte dans sa tête en se disant bon bah je suis numéro 2, il s'appelle Felipe Massa, quoi. Donc voilà, donc je pense que ce qui était intéressant ce week-end, c'est qu'il y en a 3 pour moi qui ont été particulièrement agités dans leur pilotage. C'est Perez, c'est Weber qui a été lui aussi très agressif et très à la limite, et c'est Rosberg dans une moindre mesure. Et que c'est 3 mecs qui, entre guillemets, depuis le début de saison, ils ont besoin de faire leur preuve pour des raisons différentes, mais ils ont besoin de faire leur preuve. Ils sont un peu le couteau sous la gorge, et je pense que voilà, c'était un peu ce Grand Prix de la revanche des seconds couteaux. On commence déjà à faire plein de titres partout, c'est les numéro 2, et c'était un peu le Grand Prix comme ça pour Grosjean, pour Perez et compagnie, où on sentait que ces mecs-là avaient besoin de prendre une revanche. Et bon, bah Perez, ça a été le plus visible, parce qu'il s'est retrouvé à se battre avec son coéquipier.
Avec tout le monde, de toute façon, dès qu'il y avait une autre voiture.
Oui.
Et sans flinguer ses pneus. Parce qu'à faire tout ce qu'il a fait, on aurait pu croire qu'il lui arrive un sale truc, et finalement, pas tant que ça.
Ça, apparemment, c'était plutôt les pneus qui tenaient ce week-end, parce que vu que ça s'est battu de tous les côtés, il n'y a pas eu beaucoup, enfin, il y a toujours eu 3 arrêts, comme d'habitude.
Mais ce qui est étonnant, c'est que Button a déclaré que, du coup, dans la bataille avec Perez, il avait un peu défoncé ses pneus et que ça lui avait coûté sur la fin de la course.
Arrêts, d'ailleurs.
Sauf qu'on voit, bah oui, mais Perez lui aussi s'est battu avec toi et ses pneus ont tenu et mine de rien, il fait une 6e place et sur la fin, il avait encore de l'énergie pour aller chercher Weber. Donc, l'argument de j'ai défoncé mes pneus, oui, d'accord, mais lui, voilà, il a fait comme toi. Pourtant, il est plus agressif, il est moins économe et il a quand même réussi à garder ses pneus en vie.
Tu comprends, il a du mal. Tu sais, comme les Red Bull, ils ont vachement de mal avec leurs pneus.
Oui.
Vous savez quoi ? Moi, je rêve secrètement d'un truc. C'est que Pirelli change en effet la structure de leurs pneus et qu'en fait, pour Red Bull, ça soit pire. C'est-à-dire, imaginez, ils changent la carcasse et tout. Ouais, d'accord, vous avez gueulé, on le fait. Sauf qu'au final, c'est une catastrophe pour Red Bull. Là, ça serait marrant. Mais en attendant, de parler de Red Bull, parlons de Ferrari et de Felipe Massa, qui a marqué 1035 points, dont aucun de nous trois.
Je pense que les gens ont eu pitié.
Non, mais il a pas eu de chance. Alors, Pirelli a donné une explication officielle.
Oui.
Une explication officielle ne veut pas dire que c'est la vérité.
Surtout quand elle a tendance à dédouaner celui qui donne l'explication officielle.
Selon eux, ouais, non, il y avait plein de débris, c'est normal. Mais enfin, c'était quand même 2 fois à l'arrière gauche.
Alors, mais,
deux fois sur la même voiture.
Même Massa, il avait dit que là, dans le premier cas, c'était une usure des pneus. Donc là, ça peut venir d'un réglage ou on sait pas quoi. Et dans un autre, dans le deuxième, c'était une crevaison pour le coup. Donc là, la crevaison, oui, c'est sans doute dû peut-être à un débris ou à quelque chose.
Mais est-ce que c'est vrai qu'il y en avait pas mal hein, avec tout ce qui s'est passé en course.
Mais après, sur l'arrière gauche, ça peut être, c'est-à-dire qu'on vise Pirelli la qualité des pneus. Enfin, si c'était vraiment la qualité des pneus, ça aurait été pas le seul pilote à qui ça le faisait.
Bah, donc, c'est ça le truc.
C'est sûr que c'est la. C'est...
Bah, en même temps, il y a eu le truc d'Hamilton, justement, c'était aussi son arrière-gauche.
Oui, mais.
Qui, ça a pété sa suspension.
Alors, après, voilà, c'est peut-être aussi dans ce cas-là. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que si c'était vraiment les pneus, ça le ferait quasiment tout le temps. Ça le ferait à tous les pilotes. Il n'y aurait pas, entre guillemets, que
voilà,
deux cas.
Il n'y aurait pas que Massa.
Là, on voit quand même que c'est Massa et Hamilton qui sont deux pilotes au style plutôt agressif, on dira. Et on peut très bien aussi estimer que ce sont des pilotes aussi, dans leur réglage, qui ont peut-être pris des options de réglage était pas bonne. Donc c'est ce qu'on oublie toujours un peu dans ces pneus, c'est qu'on tape sur Pirelli en oubliant derrière que bah oui non mais les pneus on les met sur la voiture, mais aussi on règle la voiture d'une certaine manière, et que ce soit les Pirelli ou les Bridgestone à une époque et compagnie, il fallait trouver le bon équilibre entre les réglages, les pneus et compagnie, et que bah tout ça c'est un équilibre, et peut-être qu'aujourd'hui bah dans le cas de Massa, c'était peut-être un excès de carrossage peut-être une mauvaise pression ou ce genre de choses qui ont fait que ça a aggravé un problème qui certes est un problème dans les pneus Pirelli qui est sous-jacent. Enfin, on se doute bien que la qualité des pneus Pirelli d'aujourd'hui est propice à ce genre d'incident.
Alex, non, sur les pneus Pirelli, sur Massa, tu peux dire je m'en fous.
Je dois dire que j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé avec Massa. J'ai vu ce qui s'était passé en course, mais pourquoi le pneu a lâché comme il l'a fait, pourquoi ça. Enfin, non, j'ai pas trop suivi, donc j'ai pas
non,
trop
engagé. Non, mais les pneus Pirelli, c'est que des pneus de merde.
Non, je trouve que pour les Pirelli, je me demande. L'année passée, les pneus me semblaient bons. Ça offrait du spectacle et c'était relativement endurant. Et pourquoi ils se sentent obligés de changer chaque année les pneus? Cette année, ils sont très controversés, alors que l'année passée, il y avait, oui, les gens râlaient, mais bon, les pneus restaient bons. Quoi. Pourquoi ils ont changé?
C'est parce que alors le problème, c'est que donc il y avait eu les pneus l'an dernier qui étaient déjà plus souples hein, que ceux d'encore avant. Donc les équipes ont gueulé, ouais non c'est n'importe quoi, sauf qu'elles s'y sont habituées, et certes l'exploitation était compliquée, mais au bout d'un moment, à force de rouler tout simplement, ils ont réussi à comprendre les pneus, ce qui fait qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de critiques. Sauf que au bout d'un moment, ils les comprenaient tellement bien que en fin d'année, c'est le contraire qui s'est produit. À Abu Dhabi notamment, c'est-à-dire que les choix de pneus étaient trop durs, trop
conservateurs.
Trop conservateurs. Donc bah forcément, comme c'est une course sans fin, ils se sont dit bon bah va falloir encore qu'on assouple les pneus.
D'ailleurs, à noter que Pirelli a indiqué qu'il se réunissait aujourd'hui
oui.
Et donc ils ont,
je sais pas si les décisions
et
sont
alors, Paul Embury a déclaré, attends, je lis la news. Au final, nous avons eu une grande majorité des équipes qui sont venues nous voir et nous ont dit quoi qu'il arrive, ne changez rien. Il dit ensuite nous pourrions parce qu'il le faut et parce que nous voyons des choses en tant que fournisseurs de pneumatiques qui peuvent être changées, mais essentiellement ils nous disent ne changez rien même si vous avez une couverture médiatique qui n'est pas positive. Donc en fait voilà, c'est-à-dire que il dit que il y a des choses qui vont devoir changer de leur point de vue parce que il y a des problèmes, notamment des crevaisons, compagnies qui sont en investigation et que ça va peut-être nécessiter des changements de leur part, mais que pour le moment de la part des équipes, en dehors de Red Bull et de quelques équipes, Red Bull étant, il cite clairement Red Bull en disant que c'est eux qui font le plus de bruit et en disant que Red Bull veut des pneus faits sur mesure pour eux, ce qui est pas
a priori c'est Red Bull et Mercedes,
ce qui est pas étonnant de la part Red Bull hein, puisque Red Bull ils ont déjà dit qu'ils voulaient le règlement actuel, ils voulaient que ce soit stable. Tu m'étonnes. C'est le paradoxe pour eux, c'est que effectivement il y a peut-être des choses à changer dans les pneus, mais les équipes ne veulent pas en changer.
Bah non, parce que maintenant qu'ils ont accumulé des datas, si tu changes les pneus, faut partir de zéro. Ouais. Forcément.
Non, mais s'ils changent les pneus, ils reprennent ceux de l'année passée, donc ça devrait pas poser problème.
Oui, mais sauf que les voitures ont évolué. Donc, bien sûr, ils repartiraient pas de zéro, complètement, c'est, oui. Mais, voilà, faudrait repartir alors qu'ils ont quand même déjà accumulé 4 grands prix de data.
Oui. Et c'est d'ailleurs ce que dit Paul Embury, il dit que, donc, il est le directeur de la compétition, il dit dans une interview qui est sortie aujourd'hui, hein, qui vient juste de sortir d'ailleurs, et donc, il dit que, Les équipes vont s'habituer, que de toute façon déjà en 2011 et en 2012, il avait fallu 6-7 Grands Prix pour que les équipes prennent leur repère et qu'après ça avait été. Donc il fallait aussi pour lui attendre ce délai-là. Et notamment, il dit que par rapport à Red Bull, ce qui peut peut-être justifier la frilosité de certains à ne pas vouloir changer, enfin la volonté de certains de ne pas vouloir changer de pneus, c'est justement que Red Bull est très contre. Et il dit, voilà, quand vous avez une équipe qui fait beaucoup de bruit, qui veut changer les pneus à ce point-là, les autres ont tendance à se dire, mais attends, s'ils veulent changer les pneus, c'est qu'ils sont pas du tout à l'aise avec. Bon bah on va peut-être les garder en fait ces pneus, nous on les aime bien.
Sixième place, eh bien c'est un pilote Mercedes, c'est Lewis Hamilton, 1618 points. Je lui ai donné 6 points, comme Dino, Alex lui a donné 8 points.
Bah ouais, il s'est bien relevé en fin de course, je voyais pas terminer, il a terminé 5ème oui. Je crois. Ouais, je le voyais absolument pas terminer à cette position, donc il nous a fait du Lewis en fin de course en attaquant un peu tout le monde et très propre, enfin très incisivement. Donc et puis une fois encore, le duel avec Weber était musclé mais toujours super correct. Donc ouais non, cette belle course d'Hamilton, enfin belle
c'est
fin de course
d'Hamilton. De la Malaisie. En Malaisie, on avait Hamilton qui avait un peu allumé ses pneus en début de course et qui, à la fin, a été obligé de conduire à l'économie. Et au contraire, lui, Rosberg, derrière, qui klaxonnait en disant « Non, mais moi, j'ai économisé au début, je suis plus rapide. » Et là, on a senti Hamilton, vraiment le schéma inverse. Peut-être que Rosberg s'est dit « Ouais, bon, bah je peux attaquer davantage au début, j'économise bien mes pneus. » En se souvenant de la Malaisie. Et Hamilton, peut-être justement lui, en se souvenant de la Malaisie, s'est dit, j'attaque pas trop au départ parce que mes pneus, je les bouffe. Je vais économiser un peu les pneus. Je vais les faire tenir jusqu'à la fin. Ça va peut-être payer. Et c'est vrai qu'on a une première moitié de course où Hamilton est quasiment transparent. On ne le voit pas. Et la fin de course, bah, il fait son effort. Il y a une belle bagarre avec, c'est ce qui fait principalement que je l'ai mis dans mon classement, c'est qu'il y a une belle bagarre avec Weber. Voilà, il a su ménager son effort. Et, depuis quelques semaines, je cherche un peu comment on pourrait décrire les courses de F1 et je les décrirais un peu comme les courses de NASCAR. Les courses de NASCAR, on dit souvent une course de NASCAR, ça fait aller 200, 300 tours, enfin, certaines 500 tours, mais on va dire allez, ça fait 200, 500, de 200, 300 tours. Les 150 premiers tours sur une course de 200 tours, voilà, c'est passé à éviter le danger. C'est pas la partie la plus intéressante de la course. Par contre, les 50 derniers tours, c'est money time, c'est là où se gagne ou se perd un Grand Prix. Et la Formule 1, c'est un peu ça. Je pense qu'aujourd'hui il faut savoir économiser en début de course pour ensuite faire son effort en fin de course quand les voitures sont plus légères. Et c'est aussi cette combinaison à la fois des pneus et du plein de carburant qu'il faut savoir faire le dos rond en début de course. Et en fin de course, la voiture est plus légère, on peut avoir un train de pneus tendres ou un train de pneus plus neuf et qui va durer plus longtemps avec les pneus. Et donc là, on peut se permettre d'être plus incisif avec la voiture. Et d'ailleurs, même Lewis Hamilton, il a parlé d'une voiture qui avait été transfigurée à la mi-course. Peut-être aussi le signe que la Mercedes se comportait mieux avec enfin qu'ils avaient trouvé des réglages plus aptes pour les qualifs et pour donc la fin de course, et beaucoup plus complexe et plus difficile pour le début de course. Mais contrairement à Rosberg, lui Hamilton a su faire le dos rond en début de course et pas flamber comme a flambé Rosberg. Et toi Shinji, qu'as-tu pensé de la course d'Hamilton?
Non, globalement la même chose que toi.
Et c'est pour ça que tu nous interromps.
Je ne t'ai pas
le
interrompu.
C'est pas incroyable.
Bien, passons à la cinquième place. Le pilote Force India, Paul Di Resta, 1688 points. Je lui ai donné 12 points. Comme Alex, Dino, tu lui as donné 15 points.
Ouais. J'étais tellement triste que ce soit pas sur le podium. Content que ce soit Grosjean qui ait sa place. Mais si j'avais pu, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait dans mon top 10, j'ai mis Grosjean et Di Resta sur le podium. Si on avait pu, j'aurais fait un podium à 4. Parce qu'il fait une super course. Voilà. Oui. Il a une stratégie en deux arrêts. Il amène bien. Il est pas si loin que ça comparativement par exemple de Raikkonen. Voilà, rien à dire sur sa course.
Il finit à 2 secondes de Grosjean. Hein.
Ouais, bon après sur la fin, ils ont tendance un peu à décélérer, mais je crois que tours de l'arrivée, il y a.
Ah mais il y a pas 15 secondes.
Oui voilà, il y a 10 secondes entre Grosjean et Raikkonen et Grosjean vient de dépasser Di Resta à 5 ou 6 tours de la fin. Donc enfin ouais, une dizaine de tours de la fin, donc on peut estimer quoi, il était allez grosso modo à 15 secondes de Raikkonen, 15-20 secondes. Bon, voilà, il y a quand même deux voitures qui sont différentes, une très très bonne Lotus en course, voilà, une Force India qui était à la fois rapide en qualif, enfin qui avait le potentiel pour être rapide, mais en plus qui était économe avec ses pneus. Sincèrement, c'était un très beau week-end de la part de Force India, et bien payé pour le coup avec Di Resta.
J'ai l'impression que Di Resta, c'est le pilote qui va te faire une très très bonne course s'il n'y a pas d'éléments extérieurs qui viennent le déranger. Ici, Di Resta, il a fait une course relativement tranquille, sauf sur la fin, où il a dû s'incliner face à Grosjean, mais sinon, en dehors de ça, il a fait sa course et sa fin. Il l'a fait comme il la voulait, quoi. Et donc, il termine avec une bonne 4e position. Une fois qu'il est un peu dérangé,
mais le problème, c'est que ces derniers temps, quand ils sont dérangés, c'est souvent fatal la voiture.
C'est oui, souvent, oui,
en 2013.
C'est entre eux en plus, hein, donc c'est pas malin.
Bon, ce qui est bien là, c'est qu'ils sont partis l'un à côté de l'autre. Il y a pas eu de problème entre Sutil et Diresta. Ils se sont expliqués, ils se sont réunis autour d'une table. En ce moment, alors sincèrement, en ce moment, il doit y avoir une promo sur les tables en Formule 1. Parce que qu'est-ce qu'on réunit comme pilote autour d'une table? On a réuni Weber et Sébastien. Ça a pas trop bien marché. On a réuni Diresta et Sutil. Ça a bien marché pour ce coup-là. Là, on a encore réuni ce week-end Perez et Button autour d'une table. Mais il y a un marché, les mecs. Il faut faire des tables pour la F1.
Diresta.
Apparemment, ils ont fait Diresta la paire.
Qui...
Perez et Button,
ça quand même en 4 courses rentre 3 fois dans les points. On avait été beaucoup impressionné par le premier Grand Prix de Sutil.
Oui.
Mais au final, au bout de 4 courses, Diresta, il en a 20. Sutil, il a
mais c'est points. Ce qui rend compliqué aussi les pneus, enfin toute la configuration de la F1 actuelle, c'est que je trouve que ça amène souvent à se faire une fausse opinion des Grands Prix. C'est vrai que ce qui nous avait impressionné avec Sutil, c'est qu'il avait mené la course, mais sur une stratégie différente et compagnie. Donc c'est vrai que c'est ce qui amène aussi un petit peu à voir les choses différemment et qui nécessite vraiment de prendre beaucoup de recul pour analyser. Parce que globalement, Diresta, il est juste derrière Sutil et visiblement, il aurait éventuellement pu le dépasser en Australie, puis derrière il est dans les points à chaque fois, enfin sauf en Malaisie où il abandonne. Donc voilà, Diresta pour moi il fait un aussi bon début de saison que Sutil, même meilleur là aujourd'hui en termes comptables.
Oui, passe à la 4e place et il a raté le podium. Et s'il n'avait pas eu tous ces soucis, oh, il pouvait sans doute jouer le podium. C'est Fernando Alonso, 1949 points. J'ai donné 10 points, Dino 8, Alex 6.
Il est quand même super bien classé au classement.
Ouais.
il a fait une bonne remontée quand même sans DRS.
Oui, parce qu'on a beaucoup insisté avec... sur le problème de DRS. Il fait quand même une course, j'ai envie de dire, presque une incroyable course. Bon, il a été éclipsé par d'autres. Mais en effet, suite à son DRS, il recule à, enfin, son double problème, hein, finalement, son double arrêt, il recule à la 18e, 19e place, et il finit dans les points quand même.
Io non capisco. C'è un problème à Ferrari, non capisco, perché? Pourquoi t'as appuyé sur ce bouton, vraiment ouais, là, de merde?
Pourquoi le deuxième arrêt? Le premier arrêt, il se comprend, mais le deuxième, pourquoi avoir réessayé?
Alonso a dit que l'équipe lui avait dit qu'il pensait et compagnie. Maintenant, c'est un peu ce manque de précaution. C'est bon, le problème, c'est le truc, c'est désactivé. Ouais, il pensait que c'était bon, en tapotant bon, dessus et compagnie. À la limite, voilà, c'est soit vous attendez le prochain arrêt, vous faites un test avant de vous en servir. C'est là même pour le coup, on est aussi obligé de faire le reproche à Alonso. C'est Alonso dont on est toujours à chaque fois qu'il y a une décision positive, on dit ah ouais mais ça c'est la grinta d'Alonso, il sait prendre des décisions. Ça c'est une bonne décision d'Alonso, il a su prendre la décision. Oui, enfin là pour le coup, faut à un moment donné aussi les mauvaises décisions, faut aussi parfois les attribuer à Fernando. C'est lui qui active le DRS. Il est peut-être aussi à un moment donné en position de se dire bon les gars, vous êtes sûr de demander à l'équipe, vous êtes vraiment sûr que si je l'enclenche, le problème va pas se refaire. Voilà, je trouve qu'ils se sont précipités. Peut-être qu'il aurait fallu attendre, c'est ce que suggérait Prost, attendre l'arrêt suivant pour faire un test avec le DRS, voir si ça marchait ou pas. Ou alors, dès le stand, bon, je pense que dès le stand, parce que ce serait trompé, mais dans le stand, dire à Alonso, fais un test, appuie, on perd 2-3 secondes, mais fais un test, et nous on est derrière et on le rabasse si jamais il y a un problème. Bon, on a vu que de toute façon, en course, quand il l'aura activé une deuxième fois, il s'enclenche bien. C'est au moment du désenclenchement que le truc repart. Mais bon, ils auraient quand même pu faire ce test-là. Il suffit d'appuyer sur le bouton, de freiner sur l'emplacement. Bon, très vite, ils voient que le problème est toujours là. Bon, ils peuvent lui dire, écoute, on a perdu 2-3 secondes, mais au moins, on a vérifié et le truc ne marche pas, quoi. Donc, ils ont manqué un peu de vigilance sur ce côté-là et c'est très surprenant.
Vraiment dommage parce que avant, il était rapide et après, il a été rapide. Il y en a que je crois que c'était sur Formula 1 qui pensait à se poser la question, la qualité intrinsèque de la Ferrari. J'ai envie de dire, Ferrari, en ce moment, ils sont pas en panique au niveau de leur voiture. Ils ont eu des soucis, des vrais soucis, mais voilà, ils n'ont pas encore à s'inquiéter sur le niveau de la voiture.
Mais à Bahreïn, sans le DRS, c'est quand même un grand prix avec beaucoup de lignes droites, donc c'est pas aussi handicapant que je sais pas. C'est vraiment le circuit pour avoir une panne de DRS.
Je suis pas sûr. Parce que justement, il y a deux lignes droites, et c'est vrai que pour le coup, c'est quand même un circuit où si t'as pas le DRS, ne serait-ce que pour dépasser, tu peux dépasser parce que t'as les lignes droites, mais ça te facilite quand même grandement la tâche, même pour suivre un groupe ou pour l'activer, même quand tu veux. De toute façon, la FIA vérifie plus, donc voilà, tu peux faire ce que tu veux. Même Button, il active quand il y a pas de raison de l'activer. C'est quand même une grosse perte, quoi. Même pour te défendre, enfin, c'est sur ce circuit-là, c'est quand même une grosse perte.
Mais malgré ça, je pense pas qu'il aurait pu jouer la victoire. Tu lui enlèves 20 secondes pour son arrêt inutile au stand, puis tu dis allez, soyons larges, il a perdu 10 secondes en course, ça fait qu'il est bon. Tu lui enlèves 30 secondes, il arrive deuxième, quoi.
Le podium, mais pas la victoire. Même au début de course, Vettel. D'ailleurs, il fait un très beau début de course, Alonso, et Vettel le dépasse magnifiquement dans le virage 4-5-6. Là, c'est un super dépassement. Mais même dès le début de course, on voit de toute façon que la Red Bull de Vettel est un peu plus rapide. Alors après, peut-être la stratégie.
Disons que
Vettel était intouchable ce week-end.
Franchement, mais voilà, avant l'accident, avant le souci de DRS, il peut facilement être deuxième. Sans aucun souci, je pense, vraiment, 2, limite 3, et après, sans le deuxième arrêt, il peut être 3, 4 ou 5.
Ça montre quand même que chez Ferrari, il y a vraiment un problème au niveau de la gestion de course, parce qu'en Malaisie, ils font quand même une erreur de team de fond de grille, et ils refont le coup en disant à Alonso, n'appuie pas sur le bouton, on l'a réparé avec notre main, le DRS. C'est-à-dire, Ferrari a fait perdre facilement une trentaine de points à Alonso.
Trop de confiance. Et ça, on le voit, mais c'est un truc de chez Ferrari, mais c'est aussi chez d'autres.
Mais qu'ils fassent gaffe, hein. Regarde Alonso... McLaren l'an dernier, le nombre de points qu'ils ont fait perdre à Hamilton, hein. Là, il a pas marqué 0 point, mais il est que 8e. Après la bulle qu'il a eue en Malaisie, ça commence à faire beaucoup. Surtout pour quelqu'un qui joue le titre.
Ouais. Même si on est qu'au 4e Grand Prix de la saison, 30 points d'écart, je trouve que c'est beaucoup, parce que c'est la période de l'année où les pilotes doivent essayer de grappiller le plus de points possible, parce que tout le monde est dans la même situation avec les pneus, et là Vettel, il prend de très très gros points. 30 points, c'est quand même énorme, sachant que on démarre tous dans le flou avec les pneus. Et deux victoires, 30 points sur Alonso, ça va quand même peser très très lourd, sachant qu'en 2010, il perd pour 4 points, l'année passée c'était 3, il y en a 30 après, 30 points d'écart après 4 Grands Prix.
Les points pour moi sont plus à prendre, hein.
Ouais, c'est ça, quoi.
Et ça montre aussi à quel point c'est pas facile de la part, et c'est un exploit même de la part de Vettel et Red Bull de faire ce qu'ils ont fait depuis 3 ans, d'être devant, de réussir à tout faire correctement, de pas faire de faute. C'est extrêmement compliqué d'être dans cette position où on se sent en confiance, où on a l'impression que rien ne peut nous échapper, et de maintenir ce niveau de vigilance qui est ce niveau d'exigence et de vigilance qui est de ne faire aucune faute, de ne laisser rien passer, de tout surveiller, de tout vérifier 2-3 fois, alors que pourtant tu excelles, quoi. Et c'est vrai que l'an dernier, Ferrari, ils étaient sur chaque détail, ils étaient parfaits et tout, il y avait aucun reproche à leur faire. Enfin, il y a au Canada, peut-être on peut leur reprocher leur décision stratégique, mais globalement, il n'y a pas de reproche à leur faire, parce que ils sont sous couteau sous la gorge, quoi. Ils sont obligés d'être hyper vigilants. Là, ils sont un peu mieux, ils s'autorisent à être pas trop vigilants, et ça montre vraiment la qualité de Red Bull ces 3 dernières années. C'était que même en excès de confiance, ils faisaient pas ces erreurs là, ou ils en faisaient vraiment très très peu.
Pour moi, ça c'est la plus grande qualité de Vettel. Le mec, il a 3 titres, mais dans sa tête, il en a pas. Il a pas gagné 2 fois cette année. Le mec, il redémarre de zéro à chaque Grand Prix, quoi. Et pour moi, ça c'est une qualité que par exemple Hamilton n'a pas. Alonso, Hamilton et Vettel sont tous les 3 des top pilotes. Il y en a clairement un qui il se remet totalement en question à chaque Grand Prix, quoi.
Et voilà, c'est ce qui fait sa force, c'est ce qui fait que je trouve qu'on sous-estime sur ça, c'est qu'on a l'impression que c'est facile. Encore une fois, ce week-end, on dit ouais, c'est facile. Oui, mais c'est pas facile d'être devant et d'être le meilleur. C'est très facile de s'assoupir, de faire une erreur. On se rappelle tous du Grand Prix d'Australie 2007 que Kimi Raikkonen remporte. Et au moment donné, il est tellement confortable qu'il dit lui-même, il s'endort et il fait une petite erreur. C'est facile de s'endormir et faire une erreur, et ça Vettel il en a fait très peu, là où Ferrari par exemple ils en font mine de rien, dès qu'ils sont un petit peu en assurance, ils en font à chaque fois une, quoi. Trop présomptueux chez Ferrari en ce moment.
Voilà, ça va peut-être les calmer, hein, après les deux.
Bah, visiblement ça les calme pas. Les mecs, ils ont fait 2 saisons d'affilée avec un camion, ils ont une bonne voiture cette année, et ils continuent les erreurs.
C'est surtout qu'ils commencent à en faire, quoi. C'est-à-dire qu'ils faisaient des erreurs de conception, mais sur les week-ends, ils étaient relativement irréprochables.
Oui, mais tu prends en 2010, ils ont quand même fait la stratégie à Abu Dhabi en 2010, c'était à chier. C'est ce genre d'erreur-là qui n'arrête pas de répéter.
Mais c'est ça, c'est que Ferrari, depuis 4 ans, quoi. Alors peut-être qu'ils sont plus habitués à gagner, ou je sais plus quoi, mais mais dans les moments décisifs où ils sont en position de gagner ou quelque chose, ils déchantent, quoi. Et je pense qu'il y a un vrai problème. Là, pour le coup, il y a un vrai truc à gérer, et c'est peut-être que Alonso va falloir que, là, pour le coup, il tape à nouveau du poing sur la table et que il redevienne le Alonso méchant. Plus l'Alonso qui prend les drapeaux et compagnie, mais qui redevienne le Alonso un peu à râler et compagnie pour remettre un peu l'équipe sur le bon chemin.
Je me demande s'il a pas trop, enfin, quand tu regardes Alonso, tu sais que le mec il va devenir une légende, mais qui joue aussi fortement là-dessus. Quand il prend le drapeau en Chine, le drapeau de Ferrari, qu'il le brandit au-dessus de sa bagnole, ça c'est une image forte. Mais je me demande s'il ne cherche pas trop ça, et sa confiance aveugle en l'équipe, c'est l'air de dire, moi je suis Ferrari, je sais, j'ai confiance, on va gagner, et j'ai le talent pour. Enfin, il est trop confiant parce qu'il sait qu'il va devenir une légende.
C'est vrai qu'il y a une communication et peut-être un rapport. Là, on sent plus à un Alonso dans la séduction. Le coup du drapeau en Chine, c'est vraiment un truc de séduction.
Mmh, oui.
Séduction des tifosi et compagnie. Peut-être parce qu'il a l'impression que, en termes de pilotage et de talent et d'influence sur l'équipe, il a déjà montré que il a plus rien à apporter. Que tout ce qui lui reste à faire maintenant, c'est de se construire une histoire avec Ferrari. Une histoire charnelle. Une histoire vraiment au sens de la Scuderia, de devenir l'un des pilotes emblématiques de la Scuderia. Sauf que peut-être qu'aujourd'hui, ce qu'il faut à la Ferrari, c'est le Alonso qui marche sur l'équipe et qui porte l'équipe, mais en même temps qui la secoue un peu, quoi. Et je pense que là, sur les 4 premiers Grands Prix, Alonso il est un peu trop dans le sens du poil de Ferrari. Faudrait peut-être que là Alonso sorte un peu plus publiquement pour dire on fait des conneries. Voilà, il faut qu'on arrête de faire des conneries, quitte à s'inclure dans l'eau, parce que je pense que dans les deux fois il est en partie fautif.
Ouais, mais est-ce qu'il peut le faire? Parce que le mec, s'il râle, on va facilement lui rétorquer tais-toi, t'as rien gagné avec Ferrari, hein. T'as pas de titre, hein, en 4 ans.
Enfin, après la saison qu'il fait l'an dernier, il est intouchable, Alonso. Personne peut venir le critiquer, même de l'extérieur.
On peut pas
voilà,
dire que c'est de sa faute.
Aujourd'hui, tout le monde peut dire que oui, il a pas de résultat avec Ferrari. Il a pas de titre avec Ferrari, mais en même temps, qui en aurait eu un, quoi. J'adore Vettel, par exemple, mais je pense que Vettel, il aurait pas fait ce qu'a fait Alonso depuis 3 ans, quoi.
Entre parenthèses, on ne sait pas si Alonso a appuyé sur le bouton, parce que réparer un DRS avec la main, peut-être que le DRS est retourné tout seul, donc c'est peut-être pas la faute d'Alonso si il a dû refaire un deuxième arrêt.
Oui, mais ça se serait fait avant, dans la ligne droite d'avant. Il y a une ligne droite avant, c'est là, entre le virage 3 et 4. Là, c'est dans la première zone DRS du circuit, la ligne GP2. Voilà, c'est dans la zone DRS, donc c'est quand même un gros hasard que ça se fasse mécaniquement,
ouais, non,
sans
vrai.
Qu'il appuie sur le bouton, pile poil au début de la deuxième ligne droite, pile poil au début de la zone DRS.
Mais ouais, je disais ça, mais je savais pas que le DRS était retourné dans la zone de DRS. Donc.
D'ailleurs, apparemment, il l'a pas senti tout de suite. Enfin, il a dit qu'il y avait quelque chose à l'arrière, mais il savait. C'est l'équipe qui a dit ouais, c'est ton DRS qui va pas. Passons au podium. Et à la troisième place, les écarts de place sur le podium sont pas si grandes que ça, en tout cas par rapport à d'habitude. Puisqu'à la troisième place, il a marqué 2625 points. Moi, Edino, on l'a mis deuxième carrément. Alex, tu l'as mis troisième. C'est Romain Grosjean. J'ai envie de dire, c'est peut-être le grand gagnant de la course, indirectement. Il n'a pas gagné la course, mais...
Bah, il s'est remis en confiance, en fait, Grosjean. Il avait besoin d'une course ça. Et à mon avis, sa saison, elle commence maintenant. Et maintenant qu'il avait des erreurs,
c'est ce que
beaucoup de monde n'allait pas dans sa monoplace. Maintenant, à mon avis, il est parti. Et peut-être que c'est pour ça, on en parlait tantôt, que Kimi, il est conscient que Grosjean, il va vraiment se lancer. Et que sur un tour, finalement, il sera totalement capable d'aller chercher Kimi. Et moi, j'ai mis troisième pour ça. Maintenant, Grosjean, il est parti. Il est quand même parti de la 11e place. Il a fait 3 arrêts comme la plupart des gens. Et il est quand même 3e, hein. Donc il a fait une très très bonne course. Maintenant j'ai pas mis deuxième parce que bon Kimi c'est Kimi, hein. je pouvais pas le lever de la deuxième place. Hein.
Par contre par rapport aux autres, Grosjean est parti en dur.
La 11e place.
A fait 2 relais en dur, voilà.
Oui, il a eu cet avantage là quand même.
Bah, c'était le deuxième à partir en dur puisque Massa partait en dur, en dur usagé, ce qui était potentiellement un très bon choix. Puis en fait non. Mais je nuancerai quand même sur le côté, oui, la saison de Romain Grosjean est partie, là, les commentateurs sur Canal+, et ouais, ça y est, c'est le début de la saison de Grosjean. Bon.
Bah, c'est son premier bon résultat.
Mais ne soyons pas comme Grosjean qui a tendance à se mettre en confiance pour un truc et juste derrière à plus être en confiance. On se rappelle de la Chine où les 6e, ouais, il était super content, puis le lendemain, il faisait de la merde. Il suffirait qu'il fasse de la merde à Barcelone et ça va replonger. Je pense que ça sera vraiment le début. C'est quand il aura
les
bons résultats, 2-3 grands prix de suite. Là, il a retrouvé confiance.
Mais tu sais que je crois que dans ses déclarations, il commence à dire, oui, je peux essayer de jouer la victoire.
Oui, bah, il est même obligé de dire, enfin, il a la voiture pour, Kimi Räikkönen l'a fait, donc.
Mais il y a un truc qui a été frappant avec Grosjean, c'est qu'il a été pris dans des duels et il s'est pas accroché et il a été assez viril et il a pas eu d'accrochage, donc qui quelque part il s'est repositionné dans le peloton en disant les gars, vous avez pas à me donner des coups de volant parce que je vais pas m'incliner en me disant merde, tu Grosjean, on va s'accrocher. Le mec il se bat comme s'il avait jamais eu d'accrochage en 2012 quoi. Il est là, pour moi c'est un gain de confiance quand même énorme quoi.
C'est un peu le truc avec Grosjean, c'est que c'est toujours la grande interrogation sur Grosjean, c'est est-ce que cette confiance va rester. Moi je reste prudent, je pense sincèrement que c'est un vrai boost et que justement plus même que le podium, ce qui a été vraiment satisfaisant, et c'est la raison pour laquelle je l'ai mis deuxième, et que je l'ai pas mis premier, parce que j'ai pas pour habitude de défaire un vainqueur, sauf vraiment pour grosse performance, et j'ai hésité à le mettre premier un instant, Grosjean.
En même temps, c'est pas comme si Vettel n'avait rien
fait
ce week-end.
Là, pour le coup, Vettel, tu peux pas le déloger, quoi. Quand c'est un vainqueur, c'est un peu serré, et que, bon, t'as le mec derrière, bon, il fait une très bonne course, il fait des beaux dépassements, voilà, je peux le mettre premier. Bon, là, Vettel, sincèrement, je suis pas d'accord. Non mais sincèrement la bataille il est indélogeable. Donc moi je l'ai mis deuxième, mais je l'aurais bien mis premier volontiers parce que justement il y a cette énergie en course qu'il a retrouvée. Maintenant j'aurais juste prudent. Voilà, on s'est fait trop de faux jouets avec Grosjean en disant ouais c'est bon il est revenu, pour me dire bon là attention, on va attendre que ça confirme. Je pense qu'il va confirmer et que le changement de châssis, il y a aussi ils avaient viré un mec qui est responsable électronique.
Alors apparemment le changement de châssis, il semblerait que sur la journée du vendredi, alors, ça n'avait pas changé grand-chose.
C'est ce qu'il a dit, c'est que ça leur a juste confirmé que ça venait pas du châssis. Donc pour ça que ça a été bien le changement de châssis, c'est que ça leur a confirmé que c'était pas un problème mécanique ou un problème du châssis. Donc ça leur a permis finalement de les mettre sur la direction du problème, qui était visiblement des réglages ou enfin en tout cas un ressenti qu'il avait. Enfin il y avait quelque chose qui faisait que il avait un mauvais ressenti de la voiture. Et que donc du coup, en tenant compte de ce paramètre-là qu'ils ont réussi à cibler, ils pouvaient mieux régler la voiture et faire quelque chose de plus propre, ce qui fait qu'il a retrouvé confiance en la voiture. Mais voilà, il y a un ensemble de choses qui fait que ça a été un peu le week-end du grand ménage où on change de châssis. Ils ont rappelé parce qu'il a changé un ingénieur d'exploitation, je sais plus quoi, en cours de saison, et il l'a fait revenir. Voilà, donc il a un peu retrouvé peut-être l'équipe de l'an dernier. Maintenant, on a très bien vu que Grosjean, il suffit d'un grain de sable pour derrière la même mécanique et que voilà, j'espère juste qu'il n'y aura pas de grain de sable dans les prochains Grands Prix.
Normalement, il devrait y en avoir moins.
Oui,
que...
on va attendre Abu Dhabi. Ah non, on va attendre l'Inde.
Ça va, si c'est... Oui, c'est vrai. C'est de la poussière.
Oui, bah, c'est aussi chiant.
C'est plus fin. Passe à la deuxième place ou vous voulez rajouter quelque chose sur
passons
Grosjean
au mourant. Ah ouais, non, sincèrement, oh là.
Ah oui, ouais, c'est pareil qu'il a juste, ouais, c'est une allergie, quoi. Enfin, c'est ce qu'il
Lewis dit. Hamilton, il a, non mais voilà, Lewis c'est Hamilton, il a fait une allergie aussi, en Chine, et il a fait les essais libres 3, et on nous a pas cassé les couilles avec, voilà, et là on recommence. Il a failli pas prendre les départs, vous vous rendez compte, et compagnie. Oui, mais il a pris le départ. Donc voilà, il a pris le départ.
En même temps, il a rien dit, voilà, c'est juste un truc qui est sorti comme ça. Après
c'est contre des journalistes. Enfin, voilà, en même temps, il a pris le départ. Donc c'est qu'il était en forme pour prendre le départ, et derrière il a fait un bon Grand Prix. Arrêtons.
Tu me diras, c'est vrai qu'il avait l'air assez souriant sur le podium, ce qui est pas normal.
Il était avec Vettel, il était avec son futur coéquipier, c'était un mini doublé pour lui.
Et pourtant, hein, avec l'eau de rose, hein, on pouvait se dire que bon, il devrait faire. S'il y a un Grand Prix que bon, il devrait faire la gueule d'être sur le podium, c'est celui-là.
Eh ben non.
Mais non, ça allait. Donc vous avez compris, hein, c'est bien sûr Kimi Raikkonen, 2962 points. Je l'ai mis troisième, Dino tu l'as mis quatrième, Alex tu l'as mis deuxième.
Ah oui, ce qui me frappe chez Raikkonen, plus que n'importe qui, c'est sa constance tout au long. Enfin, il n'y a que 4 Grands Prix, mais le mec, il a quand même... Il revient de 2 ans de rallye, qui n'ont pas été très réussis, et il revient, deuxième saison, il va jouer le titre, ça c'est sûr. Même avec une Lotus qui, a priori, n'aurait pas les ressources pour aller en fin de saison. Il continue à faire des courses à 2 arrêts, il gère ses pneus, il est serein, quoi. Et de nouveau, il part de la 9e place,
il fait un arrêt en moins.
Grâce à sa stratégie.
Une bonne remontée, je t'en perds quand même.
Bah, c'est surtout la remontée, c'est surtout dû à sa stratégie, quoi. Il démarre 9e,
oui, enfin, la
9e,
remontée aussi, faut pas oublier, c'est que, donc, rappelons, on vite fait la grille. En première position, nous avons Nico Rosberg, qui a bouffé ses pneus comme pas possible. En deuxième position, Sébastien Vettel, qui a gagné le Grand Prix. C'est aussi, alors, je m'attarde sur ça, parce que c'est aussi une explication de la performance de Vettel aussi derrière. En deuxième ligne, nous avons les deux Ferrari, une qui a été victime de DRS et qui a fait un arrêt supplémentaire, et un arrêt un peu précoce. Une deuxième qui a bouffé ses pneus comme pas possible. En troisième ligne, nous avons les Force India, dont une qui a disparu très rapidement. Donc ça fait déjà sur les 6 premiers, 4 pilotes qui ont plus ou moins disparu en course. Ce qui fait que Kimi Raikkonen, qui partait 8e, s'est retrouvé virtuellement quand même 4e. Voilà, donc quand on réfléchit, en fait, il a dépassé Weber. Et il a dépassé Di Resta, qui était sur une stratégie équivalente avec une voiture moins bonne. Donc voilà, il fait une très belle course, Raikkonen. Voilà, moi je, pour ça je l'ai mis quatrième. J'ai pas trouvé transcendant non plus. J'ai trouvé Raikkonen.
Non, là,
j'ai trouvé. Il y avait d'autres grands prix où le facteur Raikkonen me semblait plus évident.
C'est une partie
là, pour le
très
coup,
classique, quoi. C'est-à-dire un arrêt en moins, très bonne gestion des pneus, pas de soucis pendant voilà. La course.
Ouais, il avait le coup de.
C'est un peu comme Vettel, quoi.
Ouais, mais au final,
on a difficilement l'impression qu'il puisse faire moins bien.
Faire mieux non plus.
Oui, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas faire mieux parce que dès le départ, il part sur une stratégie à 2 parce qu'il est 8e. Mais si tu tiens compte des événements, tu te dis, s'il avait été sur une stratégie, bon, on en parle à la fiction, mais s'il avait été sur une stratégie à la Romain Grosjean, il aurait peut-être pu, effectivement, avec les mêmes incidents de course et le même scénario de course, il aurait peut-être pu, effectivement, être plus près de Vettel et peut-être disputer la victoire. Mmh. C'est un peu une stratégie. C'était une stratégie un peu comme la semaine dernière avec Vettel et Raikkonen. C'était une et Button. C'était une stratégie pour gagner des points. C'est pas une stratégie pour faire un résultat. Voilà. Mais parce qu'en même temps,
Là pour le coup, c'est vraiment des courses de mecs qui jouent le titre, quoi.
Oui, bah oui.
Encore une fois, une course dans les points et sans abandon pour Raikkonen.
Oui, et justement, c'est la 21e course de suite, et le record est fixé par Michael Schumacher dans les points. Le record est de Schumacher dans les années 2000, donc c'est ses années de domination.
Parce que
c'est 24.
Parce que son dernier abandon, forcément, avec sa pause de 2 ans.
Oui.
On précise, il y a la pause de 2 ans. C'était en Allemagne. 2009 sur la 960.
Mais c'est vrai que le record c'est Heidfeld, le nombre d'arrivées.
C'est 43 je crois, un truc ainsi.
Ouais. Et le nombre d'arrivées dans les points, le record c'est 24 arrivées consécutives, c'est pour Schumacher. Il y a 22 ou 23 je crois c'est Alonso et 21 donc Raikkonen. Donc d'ici le Canada je crois Raikkonen s'il termine dans les points, Raikkonen aura le record de Schumacher.
On parle du vainqueur, Sébastien Vettel. 3136 points, les a tous les trois mis premier, bien évidemment.
Bah, what else?
Moi, il m'a fait peur au début de la course. J'ai cru, franchement, qu'il allait flinguer ses pneus. Son rythme de course en début, c'était juste incroyable.
Ouais, pareil pour moi. Je pensais que ça, il ferait un premier relais super court. Et puis finalement, ce qui m'a plu surtout, c'est évidemment le dépassement sur Alonso qui était super beau. Mais sa manière de gérer toute sa course, bah ça, c'est du Vettel, quoi. Il est maître des éléments.
Ce qui est dingue sur les deux dépassements, ils l'ont montré sur dans Formula One, c'est à chaque fois les sorties de virage. Cette Red Bull a une motricité sortie de virage, mais quand tu revoyais l'image, t'as l'impression que à chaque fois la Ferrari et la Lotus c'était pas dans la même catégorie.
Mais c'est vrai que il fait deux super dépassements. Celui sur Alonso est absolument magnifique. Celui sur Rosberg il est un peu plus en arrière, donc il est moins dans les S, donc il est beau mais il est moins bien. Mais encore une fois, moi je suis désolé, mais je vois des commentaires sur FanF1 qui disent ouais mais il y a rien et compagnie. Oui mais le résultat il est là, c'est pas de sa faute. Si encore une fois je rappelle, sur les 6 premiers il y en a 4 qui se vautrent. Voilà, c'est pas de sa faute ça, Vettel. Lui il a fait sa course et sa course bah effectivement très rapidement tout suspense a été tué. Pas forcément par lui, même si je pense qu'il était intouchable.
Avec son rythme,
mais par
oui.
Les... Voilà, mais ça a été tué par les circonstances de course très rapidement. Il y a Rosberg qui est plus là, il y a Alonso qui est plus là, il y a Sutil qui est plus là. Enfin, voilà, très rapidement, il a plus d'adversaire et donc bah oui, la course devient entre guillemets facile pour lui. Mais c'est pas parce qu'elle devient facile ou parce qu'elle paraît facile qu'elle est pour autant facile. Il fallait être deuxième, il fallait ne pas avoir de problème et tout ça, il les a pas eu. Il a pas bouffé ses pneus, il s'est pas mis en difficulté. Alors c'est sûr que c'est pas la course la plus transcendante de sa part, mais bon voilà.
Il se met toujours en position pour avoir les courses les plus confortables possibles. Et là, heureusement pour lui, à Bahreïn, tous ses concurrents sont tombés les uns après les autres, quoi.
Sinon, il paraît que les Red Bull n'aiment pas les pneus Pirelli. Mais il paraît.
Mais qui s'habitue? Parce qu'ils vont les avoir, ouais. Les pneus Pirelli.
Non, mais vous imaginez la course qu'on aurait eue s'il y avait eu des pneus tendres au lieu des médiums? Il y a eu entre 3 et 4 arrêts quand même, hein, cette semaine.
Pauvre Massa.
Bien sûr.
Il aurait fait 2 tours. Hein. Les gars, j'ai plus de pneus. Bah attends, tu viens juste rentrer. Bah oui.
Au classement des pilotes, Raikkonen est premier, 67 points devant Vettel, 60, Alonso 59, Hamilton 45.
Ça, il s'en sort bien.
Massa, Massa 41. Alors après, Weber est déjà à 26 points. Au classement des équipes, Ferrari à 100 points, devant Lotus 91, Red Bull 86, Mercedes 67. Et là, il y a un gros creux, parce qu'après, c'est Force India qui est avant. Dans l'autre classement, hein, Vettel est premier, 77 points devant Raikkonen, 67. Comme quoi, j'avais bien fait de faire mon drive-through la semaine dernière. Oui, Vettel, Alonso, c'est de la merde. Non, ça va être Vettel, Raikkonen. Non, c'est encore tôt. Hamilton, 50, Alonso, 47, qui en est fait 30 points. Et Mark Webber est à 32, hein, donc on compte même plus, 45 points, c'est énorme. Au constructeur, Red Bull, 109 points, devant Lotus, 93, Ferrari, 77, Mercedes, 64. Là encore, il y a Force India est à 26. Hein. Il y a vraiment un step quand même entre les quatre premières équipes et les autres.
Bon, il y a McLaren qui va s'intercaler.
Peut-être que Perez va gagner. Je déconne.
Non, mais sincèrement, la McLaren, elle progresse étape par étape.
Ça, c'est vrai.
Ce qui est même dingue, c'est que pour dire McLaren, c'est à quel point ils en sont. McLaren, qui est quand même une écurie carrée et compagnie. Ils ont ramené des nouveautés cette année, enfin ce week-end, qui marchaient. Mais qui ne sont pas passés par la soufflerie.
Waouh.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, McLaren est quand même une équipe qui peut vous ramener, c'est-à-dire quand même la capacité de cette équipe, qui vous ramène des nouveautés qui marchent.
On l'a testé, non.
Sans les avoir testées. C'est-à-dire que c'est juste de la simulation et c'est juste du CFD et compagnie. Juste avec ça, McLaren peut faire des trucs bien. C'est juste pas compréhensible que la voiture ne marche pas. Il y a vraiment, où est-ce que vous plantez?
Mais vous la fabriquez où, la voiture?
Même là, en s'en mettant soufflerie, la voiture, ça marche bien. C'est quoi le problème? Bah écoutez, c'est Lewis qui a fait les plans avant de partir.
On va passer aux faits marquants. Vous avez été 103 à voter, merci, et comme d'habitude, merci à tous ceux qui ont voté pour le top 10. Quel était le fait marquant du Grand Prix de Chine? Avec 22 votes, 21%, vous avez choisi Mark Webber éparpillé façon puzzle. 35 votes, 33%, Alonso se balade à la première place. Et 46 votes, c'est toujours un choix qui marche, hein, ça. 44%, il n'y a pas eu non plus trop d'écart, hein, finalement, entre les trois. Raikkonen, un pilote qui a du nez.
C'est ça qui est revenu en tête? Non mais...
Ouais.
C'est pas le fait marquant de la course, quoi.
Ah si, faire une course avec un trou dans le nez...
Ouais, non mais le fait marquant de la course, à 44%. Donc c'est moi qui commence?
Oui, c'est toi qui commence.
Ah bah oui, effectivement, Sébastien Vettel, 2 points, what else? Enfin, who else?
Alex?
Moi je vais dire le gaspillage de Ferrari. Le gaspillage à répétition de Ferrari.
Tu pourrais devenir le gag à répétition de Ferrari aussi. Et toi Shinji? On va encore mettre un truc sur Raikkonen, vous allez voir. Raikkonen, magnifique deuxième.
Non. Je vais mettre Grosjean, il s'envole cette semaine, mais ne percute personne.
Putain, il n'y a rien sur Perez.
Non, j'ai hésité.
Alors que c'est vrai que c'est quand même... Parce que c'est sans doute l'un des trucs qu'on retiendra le plus de ce Grand Prix, quoi.
C'est sûr.
C'est le fight Perez Button.
Donc, quel est le fait marquant du Grand Prix de Bahreïn 2013? Trois propositions. Grosjean, il s'envole cette semaine mais ne percute personne. Le gaspillage à répétition de Ferrari ou bien Sébastien Vettel. Who else? Maintenant, je vous propose de passer, comme toutes les semaines, au concours top à position.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top à Position. Franchement, si vous avez compris les règles, vous êtes déjà un champion.
Et il va y avoir débat, peut-être. Peut-être pas, mais... En plus, là, vu le cadeau, quand même, c'est un beau cadeau. Rappelez-vous, la semaine dernière, Alan, qui avait gagné, vous avez proposé comme question, sans compter les Grands Prix de 2013... Quelle fut la dernière course sur laquelle on a vu 4 Français au départ en Formule 1? Et là, ça amène une autre question. Une question existentielle. Une question sur un homme qui a changé la face de la Formule 1. Cette question, Dino, cette question, Alex, c'est de quelle nationalité est Bertrand Gachot?
Ah oui, non mais il était enregistré comme Français, il avait une licence française à l'époque.
Il est belge.
Bah, il est belge, mais il a fait des grands prix sur la fin de sa carrière, il a fait des grands prix sous licence française.
Quand il a braqué le taximan, il était belge. Non?
Non, justement. Non. Oui, parce que alors Bertrand Gachot qui roulait avec un casque avec le drapeau européen, qui lui-même disait je ne suis pas vraiment d'une seule nationalité. Bah oui, mais on aurait quand même préféré, si tu nous aurais moins fait chier quand même pour notre question cette semaine.
Non, mais je pense que sincèrement, pour moi, tu peux accepter les réponses qui ont tenu compte de Bertrand Gachot comme un Français et celles aussi qui ont tenu compte, parce que c'est une question complexe de licence. Enfin,
oui.
On sait très bien que la licence. Enfin, c'est
pour être informatif, hein, pour savoir. Donc, il est né au Luxembourg d'un père français, d'une mère allemande, élevé en Belgique. Parce que son père était un haut fonctionnaire à la Commission européenne, d'où le fait qu'il était en Belgique. Techniquement, il a toujours eu un passeport français. Mais en effet, notamment les deux premières années où il était en F1, il roulait sous une licence belge.
Et toujours pour être informatique, après, il a changé l'histoire parce que c'est parce qu'il a été, entre guillemets, pris dans une affaire où il avait agressé un flic,
avec un taxi,
quoi.
Voilà.
Il avait agressé un taxi, qu'il a été emprisonné et que un baquet s'est libéré.
C'est un baquet. Et voilà.
Tu vois, qui c'est qui est venu dans ce baquet?
Un certain Allemand.
Non, il s'appelait Michael Schlechtschler ou Schlüchler.
Mais on s'en fout, les Allemands n'ont aucun avenir en F1, on le sait bien. On est en 91.
Je me rappelle pas du nom du mec, mais je me rappelle l'année.
On est en 91, on sait bien qu'en 91 que les Allemands n'ont aucun avenir en Formule 1. Il manquerait plus qu'il y ait des Allemands champions du monde. Voilà, c'est n'importe quoi. Ah mais c'est bon là, faut qu'on avance.
Bah avance, je cherche.
Parce que
j'oublie
donc,
non, j'oublie non.
Donc en fonction de ces considérations, on n'a pas eu 36 000 réponses, hein. On en a eu que deux différentes.
Oui, voilà.
Ça, je tiens à le dire. Voilà, il y avait celle qu'avait donnée Alan, qui était donc de répondre le Grand Prix du Pacifique, 1995.
Schumacher, putain, ça vient de me revenir, j'ai dit. Ça y est, j'ai les lettres dans l'ordre.
Donc où avaient participé Jean Alési, Olivier Panis, Bouillon, c'était comment? C'était Jean-Christophe Bouillon?
Oui.
Voilà. Et Bertrand Gachot. Et donc aussi ceux qui considéraient que Bertrand Gachot, si on considère Bertrand Gachot qui n'est pas français, dans ce cas-là, c'est le Grand Prix de Suzuka 94. On a retrouvé Jean Alési, Éric Comas, Olivier Panis et Franck Lagorce. Donc toi, t'es pour, en fait, pour qu'on accepte les deux.
Oui, parce que, enfin, ça peut prêter à confusion.
Il y a des belles questions, en plus. Franchement, le fait qu'on accepte.
Il y en a combien, Shinji?
Pas 8. Première question. Quel est le dernier pilote français à avoir gagné un Grand Prix dans un pays où le ou la chef de l'État était au pouvoir depuis plus de 25 ans au jour de sa victoire?
Ah, ça qu'on avait donné comme thème.
Un thème supplémentaire, souvenez-vous, ouais. La démocratie. Vous n'étiez pas obligé de l'utiliser, mais vous aviez ce thème supplémentaire. Un thème bonus. Vous pouviez même nous faire un truc sur la démocratie, mais sans aucun lien avec la F1. Mais je crois que vous avez tous mis au moins de la F1 dedans. Donc, voilà, première question. Deuxième question. Avant l'édition 2013, qui détient le record du tour en F1 du circuit international de Bahreïn et quel est ce temps?
Oh, on l'a déjà eu, ça, je crois que c'est Alési. Il me semble qu'on a déjà eu la question l'an dernier.
À Bahreïn. Troisième question. Qui dit démocratie dit droit de l'homme. La patrie des droits de l'homme étant...
Théoriquement la France.
Il y avait pas marqué théoriquement, mais oui, on peut dire théoriquement la France. Ma question est la suivante. Combien de fois le champion de chaque saison a-t-il remporté le Grand Prix de France la saison de son titre? Question suivante. Une question mathématique. Et démocratie. Combien de Kim Jong-un doit-on empiler au minimum pour dépasser le haut du Bahreïn World Trade Center?
Je note la question, mais je ne suis pas très chaud.
Ensuite. Depuis 1950, combien de marques de pneus différentes ont été utilisées en F1 et quels étaient leurs noms?
Ouais.
Quelles sont les trois différences entre le Grand Prix de Bahreïn 2010 et celui de 2012, forcément, sans compter les écuries et pilotes qui roulent dessus? Indice, calendrier, politique, circuit en lui-même.
Ouais, non mais ça on va avoir trois différences, mais en fait, on va se rendre compte qu'il y en a une quatrième, une cinquième, une sixième. C'est une bonne idée de question, hein, mais non.
Avant-dernière question. Sans compter Monaco, quelle est la moyenne des rangs de l'ensemble des pays traversés par la F1 au classement mondial de la liberté de la presse 2013 dressé par Reporters sans frontières? Par exemple, l'Allemagne, c'est le pays le mieux classé, il est au 17e rang. Donc parmi tous les pays qui accueillent un Grand Prix de F1, sauf Monaco, parce que comme c'est un tout petit pays, souvent ils sont hors classement. Dernière question. Selon la définition, la démocratie donne le pouvoir au peuple, mais depuis 3 années maintenant, Red Bull domine un sport, la Formule 1. La démocratie n'existe plus en F1, il ne laisse aucune parole aux autres écuries pour leur chance de victoire. À part Red Bull, quelles écuries ont été championnes du monde constructeurs au moins 3 fois de suite et en quelle année?
C'est con parce que l'emballage de la question est beau.
Oui, c'est vrai.
Surtout que je sais que je ne serai pas dans l'émission la semaine prochaine. J'ai un doute sur mon planning à venir. Donc ça m'aurait fait plaisir de savoir qu'il fallait que les mecs se démerdent avec cette question à rallonge. Mais au final, la question est un peu facile, sachant qu'il y a 3 semaines.
D'accord. Est-ce que tu t'es fait ton opinion?
Ah, j'hésite parce que j'aime beaucoup, je veux dire, j'ai un coup de foule pour celle sur le classement mondial. Mais en même temps, je me dis qu'une fois qu'on a trouvé le classement mondial, qui est pas compliqué à trouver, faire la moyenne après, c'est assez simple. Et donc, du coup, je me dis que, vu qu'il y a 3 semaines, peut-être la première question sur le premier pilote français, c'est le dernier pilote français, c'est ça? Qui a gagné lors d'un grand prix,
C'est le dernier pilote français à avoir gagné dans un grand prix, dans un pays où, au moment de sa victoire, le chef de l'État était au pouvoir depuis plus de 25 années.
Là, je me dis, tu vois, il y a de la recherche. Attends. Le dernier. Je réfléchis. Ouais. En fait, elle est peut-être plus simple que ce que je pense. Ouais.
Il prend du temps, ouais. Mais c'est vrai que, comme je le dis, c'est quand même un beau cadeau cette semaine.
Oui. Donc... Et puis, enfin, il faut aussi que je réfléchisse parce que, ouais. Faut que je réfléchisse à ce cadeau-là, mais faut aussi que je réfléchisse sur ce prochain cadeau, au fait qu'il y a 3 semaines, au fait qu'il faut que ce soit quand même assez sélectif et assez compliqué pour éviter d'avoir à chaque fois 8 réponses. Mm-hmm. C'est un peu le but. Donc, je vais prendre ça là, il y a des calculs. Ouais, c'est sur les champions qui ont gagné le Grand Prix de France.
Donc, combien de fois le champion de chaque saison a-t-il remporté le Grand Prix de France la saison de son titre?
Ouais, parce que j'ai pas le temps de vérifier. Le classement mondial, c'est je pense qu'une fois que tu la trouves, après faire la moyenne, c'est simple.
Oui, c'est pas...
Donc je pense qu'une fois que t'as trouvé la source, la question est sympa, elle est dans le thème, mais une fois que t'as trouvé la source et tout, c'est simple. C'est sur le dernier pilote français avec un chef de l'État qui a plus de 25 ans. Il me semble que le dernier, c'est Olivier Panis, et que donc c'est le père Grimaldi. Et donc c'est 96 et il est au pouvoir depuis les années 50, il me semble. Donc il n'y a pas besoin de chercher très loin.
Tout à fait. Ça. Alors d'abord, félicitations à Steve.
Bravo Steve, c'est sa première d'année.
C'est sa première de l'année. Bravo. Et en plus, pour le coup, il y avait vraiment de la compétition. Alors les autres questions. Parce que vraiment, elles étaient vraiment pas mal. Donc en effet, l'analyse que t'as fait, c'était bien la bonne. C'était bien Olivier Panis, victoire à Monaco. Et en fait, la victoire a eu lieu un mois après les 50 ans. De pouvoir de Rallye 3. Ensuite, la deuxième, c'était la question de Jérémy, c'était sur le record du tour en Formule 1. Et alors lui, il avait mis Michael Schumacher en 1:30-252 sur Ferrari. Ensuite, on a eu Kevin D77 qui nous a posé la question sur Kim Jong-un. Alors Kim Jong-un fait 1m57, oui, ce n'est pas très grand, soit 157 cm. Le Bahrain World Trade Center fait environ 240 mètres, soit 24 000 cm. Cela fait donc 24 000 sur 157, ce qui nous donne 152,87. Il faut donc 153 Kim Jong-un pour dépasser ses tours. Le compte est bon.
En rappelant quand même que déjà 1, c'est trop.
Oui. Ensuite, on a Thibaut qui était la question sur les pneus. Alors, il y a eu 9 manufacturiers de pneus en Formule 1.
Oui. Alors, attends, je me rappelle. Il y a eu Michelin, oui. Bridgestone, oui. Pirelli. Oui. J'ai fait les gros en premier. Oui. Et il y a eu...
Année 90, Goodyear. Voilà.
Il y a eu Firestone.
Oui.
Il y a eu Avon.
Oui.
Il y a eu Engelbert.
Oui.
Il y a eu... Il m'en manque deux.
Il y a un Allemand.
Ah oui, il y a eu Continental.
Continental, voilà.
Et puis...
L'autre, je sais plus s'il est anglais ou américain.
Et l'autre, j'ai un trou.
C'est Dunlop.
Oui, Dunlop, oui, effectivement.
Alors ensuite, on a Adelin qui nous a posé la question, qui voulait comparer le Grand Prix de Bahreïn 2010 et celui de 2012.
C'est de la merde, t'as dit, Adelin.
Alors, le calendrier, c'est qu'en 2010, c'était le premier Grand Prix. En 2012, c'est le quatrième. Sur la politique, bah, c'est qu'en 2010, il n'y avait pas de discorde, il n'y avait pas de problème politique en 2012. Il y a eu, hein, on l'a évoqué un tout petit peu, mais on l'a évoqué, il y a encore des problèmes à Bahreïn. Et en 2010, c'était sur le fameux circuit d'endurance avec la quéquette.
Ouais. Hein,
de 6,299 km au lieu du circuit traditionnel actuel.
Ouais, mais il y avait trop de possibilités. C'était trop flou comme question, Adelin.
Ensuite, on avait Adrien qui nous a posé l'action sur donc le classement RSF. C'était pas mal, hein. Franchement, c'était une belle question.
Mais sincèrement, c'est mon coup de cœur et c'est vraiment un regret que j'ai pas choisi parce que on aurait eu qu'une semaine, ça aurait pas empêté la semaine dernière. Mmh. Je l'aurais prise parce qu'il y avait qu'une semaine et donc du coup, on peut se permettre de donner une question un peu facile.
Quand tu vas sur le site de RSF, t'as en gros classement des pays.
Oui, voilà. Et ça, là, pour le coup, avec trois semaines, c'est un peu simple. C'est vrai que faut bien faire attention à ce paramètre-là quand vous posez les questions. Mmh. Souvent, Shinji nous le dit avant de choisir. Faut pas oublier le délai quand il y a trois semaines et quand il y a une semaine, choisissez une question simple, ça aura de la chance. Si la solution est trop simple à trouver, trois semaines, il y a très peu de chances qu'on la prenne.
Donc, sans compter Monaco, donc ça fait 18 pays. Alors, ce qui est bien, c'est que Adrien a mis les pays quand même avec les chiffres, hein, pour tout justifier et tout. Dans l'ordre du calendrier de la F1, l'Australie est 26e, Malaisie 145, Chine 173, Bahreïn 165, oui, on vient de faire une belle série, Espagne 36, Canada 20, Grande-Bretagne 29, Allemagne 17, Hongrie 56, Belgique 21, Italie 57, Singapour 149, Corée du Sud 50, Japon 53, Inde 140, Abu Dhabi 114, États-Unis 32 et Brésil 108. Ça faisait un total de 1391, donc on divisait par 18 et ça donnait 77,27777777. Donc 77. Le premier c'est la Finlande, devant les Pays-Bas, la Norvège et le Luxembourg. Et l'Andorre. La France est 37e.
On voit quand je dis que c'est le pays des droits de l'homme, hein, bah, théoriquement.
Et le dernier, 179e, c'est l'Érythrée, qui est derrière la Corée du Nord.
Ah ouais. Hein. Donc vous pouvez encore passer vos vacances en Corée du Nord.
Donc je rappelle, hein, le pire pays, c'est la Chine, dans le classement F1, qui est 173e sur 179.
C'est surprenant. Et la dernière question, c'est
oui,
de quoi, Shinji?
Justement, je suis en train de regarder. C'était Quentin, donc qui demandait donc quelles écuries ont été championnes du monde constructeurs au moins trois fois de suite, au minimum.
Voilà, il y aurait eu un peu de recherche, mais.
Vous avez une idée?
Bah Ferrari.
Oui, deux fois.
McLaren dans les années 80.
Mmh, ouais, et il y a un troisième.
Williams.
Tout à fait. Alors Ferrari, c'est il y a deux fois, entre 75 et 77, et bien évidemment entre 99 et 2004. McLaren, c'est de 88 à 91, et Williams de 92 à 94.
Donc ça... Bah que 3 quand même, oui. Hein. J'aurais pensé plus, tu vois.
Et donc Red Bull, bien évidemment, maintenant.
Mais Archie, pour quel cadeau nous battons-nous cette semaine? Enfin, vont-ils se battre pour le Grand Prix d'Espagne?
Alors je sais plus, et comme je n'ai plus la liste des cadeaux, c'est toi qui vas le dire.
Sachez que le règlement est disponible sur savf1.fr. Il y a une rubrique top opposition, et vous avez non seulement le règlement sur une page, et ensuite vous avez une deuxième page avec un formulaire, pour pouvoir répondre au concours top opposition au cas où que vous auriez des doutes. Vous pouvez très bien passer par ce formulaire là, ça envoie directement sur l'adresse du concours concours@savf1.fr.
Alors Dino, quel cadeau va-t-on offrir la semaine, enfin lors du prochain Grand Prix suite à cette question?
Ah voyons, c'est une question pour le Grand Prix
d'Espagne.
Donc, alors, on va bien évidemment offrir un cadeau à HRT.
Bah oui.
On est obligé, hein. On va vous offrir une monoplace HRT d'une valeur de 33 centimes d'euros, il faut le signaler. Ou alors c'est peut-être un cadeau un peu pourri. Je sais pas ce que t'en penses, bah, Alex.
C'est collector.
Une HRT?
Oui, une HRT.
Bon, il y a moyen de la vendre, hein. En GP2, ouais, par exemple. Ouais, donc,
mais après, on n'est pas sûr de la qualité, on n'est pas sûr, on sait même pas les pièces, on l'a pas vu, donc ça se trouve, c'est peut-être une grosse daube.
Oui, avec une HRT, tu...
Donc, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'espagnol
qu'est-ce
en Formule 1?
Qu'est-ce qui est espagnol en F1 et qui pourrait plaire aux gens?
Je crois qu'il y avait un pilote l'an dernier qui était espagnol.
Pedro de la Rosa, lui. En fait, sur lui.
Oui, alors attends, chez Ferrari. Non, ils ont rien sur Pedro de la Rosa. Ils ont pas d'objet collector sur Pedro de la Rosa. Mais je vois qu'ils ont un autre pilote espagnol chez Ferrari. Un certain Fernando Alonso. Initialement, il était prévu qu'on offre la casquette de Fernando Alonso. Mm. Sauf que cette casquette a disparu du Ferrari Store. Il reste toujours celle de Felipe Massa. Avec le drapeau brésilien, mais celle d'Alonso avec le drapeau espagnol doit être en rupture de stock ou un truc dans le genre. C'est l'explication que j'ai. Je pense que, ou alors ils ont ignoré Fernando Alonso dans le store. Donc ce sera la casquette Ferrari 2013, voilà, aux couleurs de Santander. Si jamais il y a une version de cette casquette-là avec le nom d'Alonso dessus, on vous la prendra à la place. Mmh. Mais donc voilà, c'est une casquette Ferrari d'une valeur de 35 euros.
C'est très bien tout ça.
On pourrais-tu juste nous rappeler la question, s'il te plaît, Shinji?
Oui.
Et toute la marche à suivre pour répondre.
Donc, la question. Combien de fois le champion de chaque saison a-t-il remporté le Grand Prix de France la saison de son titre? Pour répondre, n'oubliez pas, l'adresse mail c'est concours@savf1.fr. C'est tout pour le concours?
Oui.
Enfin. Ah, et soyez efficaces. En plus, là, dans les prochaines semaines, il y a des beaux trucs. Des beaux trucs qui arrivent.
Ouais, sincèrement, un conseil, trouvez des belles questions. Parce que le Grand Prix qui vient d'après, c'est Monaco. Et le cadeau pour Monaco est particulièrement beau. Donc, on choisira une particulièrement bonne question.
Oui. On va parler de la prochaine course. C'est dans 3 semaines. C'est le premier Grand Prix européen en Espagne. Des petits pronos?
Bon, Alonso, allez.
Il gagne enfin en Espagne. Enfin.
Il a déjà gagné, mais il y a longtemps, je crois, c'était à l'époque de Renault, donc...
Oui, c'est vrai.
Il est souvent performant, il fait souvent des bons départs et tout.
Ouais, je dirais aussi Alonso ou Raikkonen. Parce que comme ça, Raikkonen, celui-là... Et...
Les mecs, ils prennent des risques.
Non, mais je pense Alonso, mais mon cœur dit Raikkonen. Surtout que comme ça, ça ferait Raikkonen en Australie et en Espagne, et on connaît les statistiques.
Oui, enfin, tu connais les statistiques.
Mais oui, mais non, mais un vainqueur sur deux en Australie a été champion, et un vainqueur sur deux en Espagne a été champion. Donc quand tu gagnes l'Australie et l'Espagne...
Oui, c'est une théorie, quoi, ça se défend.
Laisse-moi rêver.
Et toi, Alex?
Moi, j'avais dit Raikkonen aussi.
Et vous remarquerez que quand même, il n'y a rien pour Mercedes. Hamilton, que dalle. Alors qu'ils ont été
si
bons,
fait parfait. Frais, peut-être.
À Monaco, peut-être.
Si fait frais.
Ça y est, on commence à ressortir les bons vieux arguments. Si fait frais. C'est la saison. C'est la saison, ces arguments-là, pour Mercedes.
C'est Hamilton qui le dit. Hein.
Oui, c'est vrai, en plus. Alex, avant de citer, tu as des choses à nous expliquer.
Oui, qu'est-ce qu'on peut
des
faire à
Bahreïn? Des messages à nous faire passer. À Bahreïn ou partout ailleurs, en tout cas à la place de la F1. Mais pour 40 euros,
ouais.
Le prix d'un abonnement Canal+.
J'avais fait Que peut-on faire à Bahreïn, et plus particulièrement à Manama, avec 40 euros pendant un week-end de Grand Prix.
C'est très bien.
Nous avons sans doute des auditeurs qui sont à Bahreïn.
Oui, 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 évidemment. C'est mondial, le SAV.
On a bien les Belges.
Bah oui, voilà, c'est super... cosmopolite comme émission. Donc, vous vous retrouvez à Bahreïn en ce week-end de Grand Prix. Comme la F1 ne vous intéresse pas, je vous recommande chaudement de vous rendre au Wow Water Park de Manama. Près de ce parc aquatique, vous trouverez plusieurs magasins de maillots de bain. Vu que vous n'avez pas pensé à prendre le vôtre, car oui, venir à Bahreïn, une île désertique en plein golfe Persique sans maillot, vous a bien sûr paru extrêmement logique. Dans ce pays déjà bourré de tensions, mieux vaut ne pas se parer du maillot qui vous dénuderait le plus. Prenez donc ce bon maillot, ce bon vieux short parachute qui coûte 10 euros.
L'entrée est payante au Water Park ou pas?
Voilà, j'y viens.
D'accord.
Vous voilà, pour aller vous éclater dans ce Wow Water Park. Normalement, vous devriez moins vous éclater quand on vous demande 10 dirhams bahreïni, c'est-à-dire 20 euros pour accéder à l'intérieur du parc. Donc, en l'espace de 5 minutes, vous aurez explosé 75% de votre budget. Après quelques heures de baignade, vous ressortez sans passer par la case vestiaire. De toute façon, ici, vous séchez plus vite que la veste de Marty McFly. Comme l'eau creuse votre estomac, vous cherchez un endroit pour manger. Je vous conseille fortement de vous rendre au 327 Sheikh Aïssa Avenue, en plein centre de Manama. Là-bas, vous arriverez à un restaurant, le Veranda Restaurant. Vous n'avez plus que 10 euros. Pour le reste de votre journée, évitez donc de prendre la lasagne du chef Halal sans cheval. Prenez plutôt ce qu'il y a de moins cher, c'est-à-dire un verre de coca. 3 euros le verre, c'est quand même cher payé, mais c'est tout de même moins cher que le menu bédouin à 5 euros. Affamé, vous décidez malgré tout de vous contenter d'un verre de coca. Après un affond de 2,5 secondes, vous payez la note et filez errer dans les rues de Manama, je dis bien, il vous reste 8 euros en poche. 8 euros, c'est plus qu'il n'en faut pour pénétrer dans cette papeterie, acheter un stylo à 2,27 euros et un timbre à 0,65 euros. Oui, car dans une papeterie de Manama, on vend des timbres. Et vous l'utilisez ces deux éléments pour écrire une lettre bien torchée à Bernie et lui dire ce que vous pensez de son sport de merde que vous détestez. Si les mots vous manquent, je vous recommande chaudement un simple mais limpide Bernie fuck off avec 3 points d'exclamation. Cette prose cinglante fera, à n'en pas douter, son petit effet sur Bernie. Il vous reste un peu plus de 4 euros, une occasion parfaite pour acheter une bombe à graffiti et taguer cette affiche qui vous insulte. Unified, une bombe de graffiti ne coûte que 3,50 euros. Oui, c'est pas plus cher, il n'y a pas de pétrole dedans. Vous barrez le Fied et le remplacez par un mot de 4 lettres qui commence par F aussi, de la langue de Shakespeare. Et avec les 58 cents qu'il vous reste, je vous conseille de vous laisser imprégner de l'islam en exécutant un de ces 5 piliers, l'aumône aux pauvres. Puis franchement, pour 58 cents, pas la peine de se comporter comme un juif, surtout dans un pays arabe. Mettez-vous à la recherche d'un clochard, on est à Bahreïn, mais il y en a partout. Dans les bas quartiers de Manama, vous en trouverez sûrement un auquel vous pourrez donner le reste de votre bourse. Ce sont des euros, mais merde, il se débrouillera lui-même pour les changer. Voilà, c'est qu'à Bahreïn, dans ces quartiers les moins avantageux, sans le moindre sou, une seule solution s'offre donc à vous. Vous installez à côté de ce clochard et faites la manche. Et alors que vous tendez votre bras vers les riches bahreïnis qui vous entourent, une pensée vous traverse l'esprit. Putain, venir à Bahreïn avec seulement 40 euros en poche, faut vraiment être...
Et sachez que pour 58 centimes, vous pouvez aussi acheter près de 3 litres d'essence.
Ah, merci Julien Fébron.
Parce que Julien Fibro nous a appris que le litre d'essence était à 20 centimes à Bahreïn.
Alors, pour une fois, je vais sortir ma calculatrice pour faire l'opération suivante. Donc ça nous fait 10 plus 20 plus 3 plus 2 euros, 27 plus 0,65 plus 3,50 plus 0,58.
Le compte est bon.
Ça nous fait donc un total de 40 euros tout. Magnifique, quel score splendide, c'est encore un carton plein. Moi je dis superbe.
Bravo.
Surtout, ça n'a pas de prix, une très belle prose.
C'est vrai. Alex, tu avais un autre message, plus personnel.
Ah oui, oui, comme je joue à F1 2013 sur PC, sur Steam, avec une manette, et que j'ai toujours pas de coéquipier pour ma carrière en ligne, je passe une annonce aux auditeurs du SAV, si y a quelqu'un qui joue sur PC avec une manette, qui me rajoute sur Steam, mon pseudo c'est Link, comme dans Zelda, J-A-B en un mot, en minuscule, et ouais, voilà, c'est juste pour savoir si quelqu'un est intéressé de jouer, de faire une carrière entre coéquipiers en ligne à F1 2013.
Et si tu es blonde à forte poitrine, ça l'intéresse aussi.
Oui, encore plus. Oui.
Là, il pourra...
On aura vraiment une femme en F1.
Ah, on n'aura pas une femme en F1, mais on a une femme sur le podium.
Oui,
c'est vrai.
Jill, je sais plus quoi d'abord.
Oui, la rétro d'électronique. En plus, c'est ça qui est bien, c'est que c'est une... là, ça montre surtout, ça met en valeur d'abord une femme, c'est bien, mais surtout, ça montre qu'il y a des femmes responsables de l'électronique. C'est pas, on aurait pu penser que c'était une fille du marketing ou un truc dans le genre, non.
Non,
non. Il y a aussi des responsables de services techniques qui sont des femmes. Donc c'est la preuve qu'il y a des ingénieurs femmes.
Ce n'était que la première fois.
Non, non, justement, c'était pas la première fois qu'il y avait une femme sur le podium. Je sais plus où j'ai lu ça tantôt, mais c'était déjà il y a longtemps, en plus. Dans les années 90, il y avait une femme, je crois que c'était pour Benetton, quoi. Une femme est montée sur le podium.
Ah oui, celle qui donnait le bouquet.
Ah. Oh, ouais.
J'ai honte. Je sais que j'ai honte.
Messieurs, on arrive à la fin de l'émission. On vous rappelle, comme d'habitude, que le SAV de la F1, c'est sur Podcast France, super site. C'est sur Pod Radio, sur la chaîne Alpha, un super site et une super web radio. C'est sur iTunes. N'oubliez pas, comme d'habitude, il y a le compte Facebook.
Oui, vous êtes de plus en plus nombreux. D'ailleurs, on va se fixer l'objectif.
Oui.
On veut, à la fin de la saison, ou sinon on arrête le SAV. Je veux qu'on soit minimum 153. Si on est 153, c'est bon, mais je veux qu'on soit minimum 153 sur le groupe Facebook avant la fin de l'année.
On est combien? Je sais pas.
Vous êtes 99, je viens de cliquer. Oui, je n'aimais pas le SAV de la F1 avant.
Ah,
je savais pas qu'il y avait une page, en fait.
Donc, allez-y, hein, 153, c'est le chiffre magique. Après, si on dépasse,
c'est atteignable.
Vous pouvez continuer quand même à y aller, n'ayez pas peur.
Alors, il y a pas de compte Twitter du SAV de la F1. Il y a nos comptes Twitter perso, en fait. Et en fait, régulièrement, on utilise le hashtag SAVF1. Sinon, s'il faut aller sur le SAVF1.fr, et en fait, en haut, il y a tous nos noms avec nos liens. Avec nos liens de nos comptes. Où ça parle de F1, mais pas que.
Non.
Et on vous rappelle, bien évidemment, que la F1 sur Internet, c'est sûr.
FanF1.com, bien sûr.
Oui, parce que le SAV de la F1,
le risque gratuit des podcasts en couleur.
En famille. Et
en
couleur, c'est nouveau. Non, pas un truc nouveau.
Non, mais c'est bien, en couleur, c'est bien. Moi, j'aime bien le SAV, c'est en couleur, c'est bien. Moi, ça me plaît. J'avais pas encore amené ma pierre à l'édifice, je l'amène. Voilà. Donc, le SAV de la F1, c'est en couleur. Moi, ça me fait rire, ça marche.
Merci Alex de nous avoir accompagnés pour cette soirée et cette émission.
Avec plaisir.
Rappelons aussi que donc il y a de la place. Alors pour l'Espagne, nous aurons un revenant qui va revenir dans l'émission. Quelqu'un qui est déjà venu plusieurs fois mais qui reviendra. Voilà, je n'en dis pas plus. voilà, il y a de la place après à partir de Monaco. Vous pouvez réserver même très loin en avance, n'est-ce pas Adelin? Et aussi, n'hésitez pas, amis québécois, si vous nous écoutez, c'est vrai qu'on n'a jamais eu de québécois. Ou même, donc, globalement, même des gens qui sont originaires des pays d'Afrique, ou, voilà, d'un pays qu'on n'a jamais visité, on aime bien aller un peu dans d'autres pays. Enfin, on reste chez nous, mais on voyage avec vous. Donc,
de découvrir le monde.
Donc voilà, n'hésitez pas à vous porter candidat, voilà, pour un grand prix dans l'année, vous serez les bienvenus.
Et Dino va se quitter?
Oui.
Tu sais sur quoi on se quitte après chaque Grand Prix?
Malheureusement.
En plus, cette année, je trouve que tu fais des beaux efforts. C'est des trucs qu'on comprend.
Oui. Alors, vous les comprenez, mais moi, je les pige plus du tout. Alors moi, je suis paumé. voilà, c'est doit être trop clair pour moi. Et donc, cette semaine, naturellement, nous étions Bahreïn, donc j'ai choisi un proverbe arabe. Et le suivant. Dans une passe étroite, il n'y a ni frère, ni ami.